I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Laura Pouliken et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast pour sortir de votre zone de confort. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a osé dans sa sphère personnelle ou professionnelle pour vous inspirer à faire de même. Ici, le contenu est bienveillant, rassurant et inspirant. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en parlant de lui à un proche qui aurait besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. Vous pouvez aussi partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.podcast et par la même occasion découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. J'ai la joie de recevoir Anne-Solange Tardy sur le podcast pour presque 2 heures hors du temps. Anne-Solange Tardy est une artiste passionnée par les mots dont elle a fait son premier métier. Multipotentielle et sensible, elle revient sur les aléas de son parcours, ses prises de décision, la difficulté de se concentrer sur un seul projet et sa révélation pour l'art qui est venue apporter une réponse aux fluctuations de son esprit. Développement personnel, créativité, liberté, émotion, devenir soi sont autant de notions que nous avons abordées avec celle dont la définition de la vie pourrait être sortir de sa zone de confort. Belle écoute.
Bonjour Anne-Solange.
Bonjour. Bonjour Laura.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je sais en plus qu'il est un petit peu tôt chez toi. Donc je ne sais pas si tu es matinale ou pas.
Oui, oui, c'est bon. Moi, je suis arrivée depuis une grosse heure déjà.
Okay,
même un peu plus, ouais, plus que ça, 1h30.
Ok, super. Ma première question, elle est très simple, mais j'aime bien la poser à mes invités. Comment tu vas ?
Ah, je vais super bien.
Ouais.
Je vais très très bien et je le dis avec d'autant plus de joie et de tout ça que pour être tout à fait honnête, je pense que je découvre depuis 1 an et demi ce que c'est de se sentir vraiment bien. Et du coup, quand je dis ça va bien, c'est comme ça va bien, un ça va bien d'émerveiller de savoir ce que c'est maintenant d'aller vraiment bien dans sa vie. Et c'est trop cool, voilà.
Génial, c'est trop bien. Et
voilà.
Et on le sent en plus que tu le dis vraiment avec le cœur, quoi. Ouais, je fais super bien.
Ouais, c'est ça. Et avant, quand j'entendais des gens dire « moi, ça va super bien », j'avais toujours une sorte de petite, je sais pas comment dire ça, de petite suspicion de « mais ça me paraissait comme pas tout à fait vrai ou pas tout à fait possible d'être aussi détendu et de se dire aussi pleinement « ça va bien ». Et du coup, bah maintenant, je fais comme « ah ouais, c'est vrai, c'est ça qu'ils ressentaient ces gens-là ». Donc, c'est super.
Ouais.
J'en profite vraiment, voilà.
De toute façon, tu vas nous expliquer aussi pourquoi ça va bien au fil de cette interview, pourquoi ça va aussi bien au fil de tes interviews. On va revenir sur ton parcours, sur tout ça ensemble. Mais d'abord, je vais commencer par une présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Comment tu te présenterais si tu devais le faire en quelques mots, en une phrase pour quelqu'un qui te découvre et qui ne te connaît pas encore.
J'espérais que j'allais couper à cette question, que c'était toi qui allais faire la présentation.
Et justement, bien, si... en fait, j'allais partir de la présentation pour être honnête avec toi et je me suis dit, eh bien non, je le ferai après, toi, si tu devais te présenter.
Alors, c'est une question à laquelle j'échoue presque tout le temps parce que j'ai l'impression que c'est toujours trop compliqué de se présenter en une phrase. Mais si aujourd'hui je rencontre une personne qui me connaît pas, je prends une grande inspiration, je me dis « fake it till make it » et je dis « bonjour, je m'appelle Anne-Solange Tardy et je suis peintre, je suis aquarelliste botanique et j'enseigne l'aquarelle botanique ». Et voilà, c'est ça que je dis. Et je le dis... tout en retenant un peu mon souffle parce que c'est nouveau et que bah, pour l'instant, je me sens pas tout à fait à la hauteur de ce titre-là. Et il y a quelques années, j'aurais dit que j'écrivais des livres puisque c'est ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et là, c'est une activité qui est relativement nouvelle, surtout à l'échelle de l'aquarelle botanique, qui est une discipline qui demande, je pense, pas mal d'années de pratique. Mais en même temps, bah, c'est ma source de revenus, c'est ça. Je pense que c'est souvent ce que je me dis, que je me raconte à moi-même quand je doute de moi. Je me dis, bah ouais, mais c'est ça ta source de revenus, tu le fais bien. Tu apprends vraiment à des gens à le faire, à peindre aussi. Et ils ont des super résultats, ils obtiennent vraiment des super résultats. Donc, il n'y a pas de raison de se sentir illégitime. Mais en fait, je pense que c'est souvent ce qui arrive quand on débute. Je pense qu'il y a toujours cet état intermédiaire où on se sent débutant alors qu'on ne l'est plus tout à fait et que bah, on n'est pas encore tellement à l'aise. C'est pas encore dans l'état où c'est tellement évident et tellement naturel que on se pose plus aucune question. Là, je suis encore dans l'étape de ma vie professionnelle où j'ai besoin de me re-raconter l'histoire que j'ai écrite. Pour me sentir à l'aise pour la présenter. Mais c'est ça que je fais maintenant. Je dis, je suis à aquarelliste.
C'est hyper intéressant. Et justement, tu vois, moi, j'allais... Alors, bien sûr, je savais que tu faisais cette activité, mais j'allais finalement, je fais toujours des recherches sur mes invités, bien sûr, pour préparer mes interviews. Et j'aurais dit aussi que tu étais rédactrice, copywriter, autrice, consultante éditoriale, blogueuse, photographe, puisque en allant sur tes différents sites et en allant sur ton compte LinkedIn, j'ai trouvé toutes ces activités qui, pour moi, sont toutes hyper enrichissantes et quelque part complémentaires. Aujourd'hui, tu ne fais plus ces activités. Et si tu les fais, est-ce que tu te considères ou tu te considérais comme slasheuse ?
Alors moi, je n'ai jamais employé le mot de slasheuse parce que... Mais en fait, j'aurais pu. J'allais dire parce que, mais parce que rien du tout. Parce que juste, j'aime pas utiliser les mots que tout le monde utilise. Mais c'est un peu idiot d'ailleurs. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai cette espèce de je sais pas, de truc à pas vouloir utiliser les mots en vigueur partout. Mais oui, c'est ce que j'ai fait pendant des années quand même. C'était très articulé autour de l'écrit. Parce que ce que j'ai fait essentiellement, ce que j'ai quand même fait essentiellement ces 15 dernières années, c'est écrire des livres, écrire sur différents supports, écrire sur mes blogs, écrire sur Instagram, écrire, oui, dans plein de domaines, pour des clients, et voilà, j'ai fait, je pense que j'ai une activité professionnelle qui est tellement éclatée et qui est faite de tellement de choses différentes que pendant des années, ça a été assez... difficile pour moi de me définir. Justement, tu vois, l'exercice de la présentation, c'était comme vraiment un cauchemar parce que je savais jamais quoi dire. Et donc oui, je pense qu'on pourrait dire que je suis ça ou que j'étais ça. Et justement, le fait de passer un peu à autre chose, eh bien, pour moi, c'est très bienfaisant. Le fait de plus avoir 150 000 activités.
C'était un choix parce que tu le vivais mal de te recentrer sur deux activités parce que tu le vivais mal ou pour d'autres raisons?
Un changement aussi important de trajectoire, c'est sûr que je pense que c'est vraiment, comme on dit maintenant, multifactoriel. Ouais. Il y a donc vraiment plein de choses. Je pense que pendant des années, une des choses qui a fait que je faisais comme ça plein de choses, c'était vraiment l'angoisse classique de la personne qui est à son compte. Moi, je suis vraiment une personne très anxieuse et être à mon compte, enfin, je pense que quand on est anxieux, être à son compte, c'est presque le pire truc qu'on puisse se faire à soi-même. Et je pense qu'une des manières que j'avais d'apaiser un petit peu cette anxiété qu'elle m'occupe pas à plein temps toute la journée, c'était de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, en fait. C'est ce que je disais tout le temps. Je disais, mon expression, c'était vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Même du coup, j'avais plusieurs, parce qu'en plus de ça, j'avais une entreprise. Donc, j'avais des revenus de mon entreprise, j'avais des revenus de mon statut d'entrepreneur individuel, de micro-entreprise. J'avais des revenus que j'ai toujours, d'ailleurs, de mes droits d'auteur. Enfin, voilà, j'avais plusieurs statuts différents qui me permettaient de me dire, quoi qu'il arrive, je suis parée à tous les imprévus. Et c'est aujourd'hui, je vois les choses un petit peu différemment. Mais en tout cas, pendant des années, c'était une des manières que j'avais de me sentir en capacité de me sentir pas en danger professionnellement, pas trop en danger.
Alors, si on revient un petit peu dans ton parcours, et puis d'abord dans ton enfance, j'aime bien revenir en arrière avec mes invités pour comprendre les enfants qu'ils étaient et quels étaient leurs rêves, et après les choix d'orientation qu'ils ont pris. Toi, quelle petite fille étais-tu et qu'est-ce qu'on disait de toi ?
Moi, je pense que je fais vraiment partie de ces gens qui étaient les enfants quand on me voit, les gens souvent qui m'ont connu enfant et qui sont encore plus âgés que moi, qui étaient eux-mêmes adultes quand j'étais enfant, me disent tous que j'étais vraiment, je suis la personne que j'étais déjà quand j'étais enfant, en fait. Je pense que j'étais sans doute un peu plus insouciante et rieuse, mais j'étais déjà une gamine qui a tout le temps les mains à bricoler des trucs, qui dessine, qui écrit des poèmes, qui fait tout un tas de trucs. Je pense qu'une des choses qui me caractérisait déjà, c'était que quand quelque chose me plaisait, j'avais envie de le faire totalement. C'est-à-dire que si je découvrais le jardin, je voulais devenir jardinier, quoi. Et si je découvrais, je sais pas moi, bah voilà, la peinture, je voulais devenir peintre. Quand je découvrais quelque chose qui, je fais pas partie de ces gens qui sont capables de, qui arrivent, qui sont satisfaits de faire quelque chose pendant quelques heures par semaine et de s'en contenter, ce qui est super. Moi, j'ai vraiment besoin de me plonger à 100% dans les trucs pour les faire. Et c'est vrai pour pratiquement tous les domaines. Ça veut dire que, voilà. C'est ça, je pense que c'est ça qui me caractérise, c'est que j'ai toujours été intéressée par les arts, par la création. Et aussi, j'étais déjà une enfant qui posait des questions existentielles. Ça, c'est clair et net. Je pense que depuis toute petite, j'ai des questionnements existentiels permanents qui sont, selon les époques de la vie, quelque chose qui m'apparaît plutôt comme une force ou un peu moins comme une force. Mais voilà, ça, je pense que c'était ça. J'étais une enfant qui aimait rire, qui adorait créer et qui avait beaucoup, beaucoup de questions existentielles.
Tu avais un rêve en particulier ?
Alors, c'est toujours difficile. Moi, ça, c'est une vraie question complexe pour moi parce que je me suis, depuis que je suis adulte, j'ai passé ces 20 dernières années, ou même pas depuis que je suis adulte, j'ai l'impression depuis que je suis... depuis que je suis enfant, en fait, j'ai écrit, je pense qu'une des premières choses que j'ai fait d'un point de vue créatif, c'est des poèmes et écrire des choses. Mais maintenant, quand je me re-raconte l'histoire, j'adorais dessiner, j'adorais beaucoup d'autres choses que écrire. Mais je pense que j'ai vraiment catalysé, j'ai compacté mon identité et ma famille et les gens autour de moi autour de l'idée que j'écrivais, j'avais fait des concours de poésie, que j'avais gagné. Il y avait tout un tas de trucs avec ça. C'est vrai que j'avais une prédisposition particulière pour l'écrit. Et du coup, je me suis vraiment beaucoup, beaucoup... j'ai compacté mon identité autour de cette idée que moi, j'étais faite pour écrire. La raison pour laquelle je te raconte ça, c'est que ce qui était une sorte de, je sais pas, tu sais, une sorte de mythe familial, Anne Solange, elle écrit, il s'est trouvé que quand j'ai créé mon blog Cachemire et Soin, j'ai pas la mémoire des dates, je crois que mon premier roman, je l'ai édité en 2017, grâce à mon blog, et ça a vraiment créé quelque chose de très puissant, de ma destinée, c'est d'écrire, et je le sais, et c'est que ça, et c'est vers ça que je vais. Et en fait, cette espèce de truc fort et dur qui est tellement le mythe que quand on écoute les gens qui réussissent dans un domaine, t'as toujours l'impression qu'il y a une sorte de mythe de quelque chose, pas forcément qui naît depuis l'enfance, mais un espèce de mythe de soi-même qui te donne le sentiment que t'as une destinée et que cette personne, elle était prédestinée. Moi, je me suis vraiment raconté très très fort cette histoire. Et en fait, ça m'a vraiment empêchée de voir qu'il y avait des tas de choses qui ne me convenaient pas dans l'écriture. Notamment le fait que, étant une personne très cérébrale et très à me vraiment faire des nœuds au cerveau, en fait, peut-être que l'écrit, qui est quelque chose qui renforce encore cette prédisposition-là, c'était peut-être pas ce qui me convenait le mieux, c'était peut-être quelque chose pour lequel j'ai des facilités. Il n'y a vraiment aucun doute, écrire pour moi, c'est facile. Et j'adore ça. Mais par contre, je pense que ça, cette espèce de mythe qui vient de l'enfance de à 4 ans, dès que j'ai su tenir un crayon, je faisais des poèmes et je sais pas quoi, c'est vrai. Mais je suis pas sûre que ça a été vraiment un service que je me sois rendue à moi-même et qui m'a été rendu de cristalliser comme ça toute mon identité autour de ma faculté d'écrire. Et je pense aussi que ça m'a empêché quelque chose de très pragmatique et de très basique qui a été que j'ai considéré que j'avais un don. Oubliant complètement que c'est bien joli d'avoir un don, mais en fait, il faut le travailler quand on a un don. Et je pense que je me suis sentie dispensée un petit peu de l'effort pas de travail, parce que j'ai écrit des dizaines de bouquins. On peut pas, mais que par contre, je pense que vraiment, j'ai pas été tellement curieuse et tellement intéressée à progresser ou à tenter des choses ou à prendre des risques. J'étais plus intéressée à ce mythe de moi écrivain que je voulais absolument faire advenir. Et ben, ça m'a pas évidemment apporté beaucoup de joie, comme on peut l'imaginer.
Voilà. Oui, ben justement, tu vas nous raconter. et du coup, quelle orientation professionnelle as-tu choisi par rapport à ça, des études de lettres, j'imagine?
Oui, alors j'ai fait des études de lettres complètement, parce que, encore une fois, parce que c'était
à destinée, en fait.
Moi, j'allais pas si loin à cette époque-là, quand j'ai choisi ma direction d'études. Ouais. En réalité, j'imaginais que j'allais devenir prof comme tout le monde, comme toutes les personnes qui font lettres. Et qui ne savent pas vraiment quoi faire de leur vie et qui n'envisagent évidemment pas de devenir écrivain comme quelque chose de sérieux et pourvoyeur de revenus financiers. Donc j'avais, à travers mes études, j'avais plus un objectif professionnel qui était celui de devenir enseignante. Et écrire, bah, évidemment, c'était j'espérais que j'allais aussi, en passant bien sûr, avoir des opportunités d'écriture et avoir développé ma fibre d'autrice, d'écrivaine en herbe. Et en fait, très honnêtement, les études universitaires ont été une déception absolue, parce que c'est pas du tout ça qu'on apprend. Pendant les études universitaires, il n'y a pas un milliardième de temps qui est consacré à l'artiste en soi. C'est consacré à tous les artistes de la planète, mais vous êtes pas, on vous considère pas comme un artiste en devenir, vous êtes un prof en devenir. Enfin, je sais pas si c'est comme ça aujourd'hui à la fac en lettres, mais il y a 20 ans, il n'y a pas un seul instant où il a été question de l'artiste en soi. Il n'était que question de la vie des autres artistes, en fait, et de la littérature. Et c'était passionnant. Enfin, évidemment, il ne s'agit pas de dénigrer ça. C'est simplement que, en effet, moi, j'ai commencé mes études avec un gros malentendu. Je pensais que j'allais progresser dans l'écriture et apprendre des choses et avoir des horizons qui allaient s'ouvrir. Et en fait, je me souviens que pendant ces années-là, au contraire, ma manière d'écrire s'est complètement asséchée, parce que quand j'écrivais des dissertations, en fait. C'était pas du tout, on n'attendait pas de moi que ce soit intelligent, poétique, charmant, on attendait que ce soit intelligible et que ça corresponde à ce qu'on attendait de moi et à la consigne demandée, qui était généralement qui rentrait dans un cadre quand même assez étroit. Et du coup, j'ai fait des études de lettres. Et je peux pas dire qu'après j'ai eu le sentiment vraiment de choisir une orientation. Après, j'ai fait ce qui m'est tombé sous la main, en fait.
Ouais, je crois que tu es passé par la radio, il me semble, que j'avais entendu dans une interview.
Ouais.
Donc, qui n'est pas l'écriture. Enfin,
non. Comment est-ce arrivé?
Non, mais c'est drôle. Moi, je fais un peu de radio aussi à Dubaï. Donc, parce que je vis à Dubaï aussi. Et c'est drôle, on a un peu le même profil. Enfin, un peu, mais bon, c'est une histoire. Mais c'est marrant, ça m'intéresse. Mais du coup, oui, la radio n'est pas l'écriture. Comment c'est arrivé pour toi, cette expérience?
Eh ben, comme beaucoup de choses dans ma vie, un peu moins maintenant, mais avant, je me laissais vraiment porter par les événements. Donc, ce qui s'est passé, c'est juste que j'avais fait, après mes études de lettres, j'ai fait des études de communication. Pour une raison qui n'avait rien à voir avec mon envie de faire de la communication, c'est juste parce que j'avais découvert que je voulais pas faire prof. Et du coup, bah, je me sentais complètement comme un animal traqué devant les phares d'une voiture. C'était comme, bah, et maintenant, on fait quoi? Et il y avait une de mes amies de fac, Claire, qui avait décidé, elle était passionnée par la pub, c'était un monde qui la faisait complètement rêver. À l'époque, c'était un peu plus glamour que ça n'est maintenant. Ouais. Elle, ça la faisait complètement rêver. Et juste de voir son enthousiasme m'a fait me dire, bon, bah, ok, allez hop, on y va. Et du coup, j'ai fait ces études de communication, vraiment parce que j'avais mon amie Claire qui était intéressée à ça et que bah, ça me faisait une copine avec qui j'allais poursuivre mon parcours. C'était vraiment, il n'y avait vraiment pas rien d'élevé, rien de profond, de vraiment réfléchi. C'était plus une sorte de solution de, bon, bah, je sais pas quoi faire. Prenons un peu le premier truc qui nous aide à prendre une décision, un peu comme JOD, quoi.
Oui, voilà, et c'est
donc,
ça.
Voilà. Et donc, j'ai fait
en se disant, en testant, on verra aussi si ça nous plaît ou pas.
C'est
et
ça.
Puis c'est ça, en fait.
C'est ça, en fait. J'avais très peu d'enthousiasme, de toute façon, pour toutes les autres voies qui m'étaient proposées. Donc, bon, bah, de voir déjà quelqu'un qui avait de la lumière dans les yeux quand elle parlait de quelque chose, c'était déjà pas rien. Et donc, voilà, j'ai fait ça comme ça. Et c'était une truc qui s'appelait communication audiovisuelle, journalistique et multimédia. C'était une école qui s'appelle l'ISCOM. Donc je me suis vraiment amusée. Je dois dire que vraiment, c'était contre toute attente. C'était vraiment marrant. Je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Et à ce moment-là, on avait donc des cours de radio. C'était le début encore d'Internet et enfin de la démocratisation d'Internet. Donc c'était tout ça un truc complètement à défricher. Et donc dans ce truc, il y avait des cours de radio. Et j'ai eu deux profs de radio qui... Il y en a un qui était beaucoup plus articulé sur la technique de radio. Je pense qu'il cherchait des élèves pour devenir un peu des techniciens de la radio. Et un autre qui avait une approche beaucoup plus journalistique et d'animation. Et en fait, tous les deux, je me souviens qu'on a fait une première émission et tout de suite, ils m'ont dit « Oh là là, mais t'as une super voix !» et tout. Enfin bref, ils m'ont vraiment comme... j'avais l'impression d'être... encore une fois, qu'on me renvoyait l'image de quelqu'un qui était archi doué dans un domaine. Et je pense que vraiment, je suis paresseuse. Et du coup, moi, quelqu'un qui me disait que j'étais douée quelque part, je me disais super, je vais réussir sans me fouler. Et ça va être super. Et du coup, ben voilà, j'étais comme un enfant à qui on fait des compliments et qui se sent tout grisé des compliments qu'on lui fait. Du coup, je me suis dit, la radio, ça a l'air super. Et de fait, je me suis beaucoup amusée. Mais voilà, c'est encore une fois... je me suis laissée porter par quelque chose, mais j'ai adoré ça. Donc, j'ai été stagiaire pour des radios qui sont pas du tout celles que j'écoute aujourd'hui, mais c'est marrant, j'ai été stagiaire pour Énergie. Et en fait, j'écrivais plus que je ne parlais parce que je faisais des reportages déjà, donc ça, c'était une chose. Je faisais des interviews, des reportages. Et d'autre part, j'écrivais tous les flash info du matin. Je faisais les matinales. Et en fait, le journaliste de Paris écrivait son propre flash info. Je ne sais pas si c'est comme ça encore aujourd'hui. Et il y avait un stagiaire, donc moi en l'occurrence, puis après ils m'ont embauché pour quelques mois, qui écrivait les flash infos pour tous les journalistes de province qui diffusaient en même temps. Donc voilà, j'avais un exercice d'écriture qui était top parce que tous les matins, entre 5h et 9h, je pense, ou 8h, j'écrivais trois fois plus ou moins le même flash en devant avec voilà un impératif de condenser le texte voilà dans une cadence qui était très très précise, hein. Il fallait qu'une partie fasse 30 secondes, une autre partie 45, que ça dépasse pas 50, et il fallait le réécrire trois fois de manière différente ou quatre fois au cours de la matinale. Donc c'était un exercice d'écriture en fait, et je m'amusais vraiment beaucoup, hein. J'ai adoré cette période.
Ouais, c'était de la news, mais c'est un... Ouais. La news pure, quoi. Et du coup, le point de départ, j'ai l'impression, de ton activité d'indépendante, c'est ton blog Cashmere and Soir, que j'ai connu, peut-être pas à son lancement, mais assez rapidement, puisque moi, j'ai créé mon blog vers 2010, tu vois, qui est un petit blog. Mais je pense que, ouais, j'étais quand même connue assez tôt.
Oui, toi, bah quand même, ouais, 2010, ça fait...
Ouais, ça remonte quand même. Ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer, du coup, ce qui t'a amené à lancer ce blog? Est-ce que c'était la période... est-ce que c'était pendant que tu travaillais à la radio? Est-ce que c'était après?
C'était après.
C'était après, ok.
Ouais, c'était après. Puis tu vas voir à quel point ma vie a été dirigée vraiment par des hasards complets. Je faisais ce que les autres faisaient, quoi. Et donc à ce moment-là, c'était quand même un peu après mes études. Je travaillais dans une administration comme journaliste d'entreprise. Et je détestais mon travail, je détestais l'administration, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre, donc je faisais ça, qui ne me plaisait pas. Et à ce moment-là, en fait, il y avait eu un changement de président. Et du coup, on n'était pas au placard, mais il y avait une sorte de... En gros, tous les projets de communication du précédent président étaient gelés et... Ben, les nouveaux projets n'étaient pas encore sur le tapis parce que le président était occupé à je sais pas quoi. Et du coup, ben, on n'avait pas de travail, en fait. On avait peu de travail. Et donc, on s'ennuyait mortellement. Et à cette époque-là, j'avais une de mes collègues amies qui suivait le blog de Hélène, de mon blog de fille, et qui est, je pense, franchement, en tout cas, qui est moi la première personne que je connais à avoir eu un blog qui soit autre chose qu'un micro-journal intime sur MySpace ou quelque chose comme ça. Et donc elle suivait le blog d'Hélène, ça lui a donné envie de faire son blog, et en la voyant faire son blog, j'ai eu envie de faire mon blog, voilà. Et j'ai créé Cachemire et Soie pendant mes journées au travail, sans avoir aucun objectif de quoi que ce soit, c'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que j'allais écrire dedans, j'avais juste envie... Je lui avais fait, je crois que je me demande si je lui avais pas aidé à faire l'habillage de son blog ou un truc comme ça. Et du coup, ça m'avait trop donné envie aussi d'avoir mon blog. Et voilà. Et il s'appelle Cachemire et Soie parce que ce jour-là, j'avais un pull en Cachemire et Soie que j'aimais bien. Et Enfin, il y a vraiment aucune intention de rien. C'était le démarrage des blogs, c'était avant que les blogs soient connus, donc il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de règles, il n'y avait rien en fait. Et ça pour moi, ça a été la chance de ma vie, d'avoir un espace libre de tout, ben justement moi qui savais tellement pas quoi faire de ma vie, que je faisais un peu tout ce que les autres faisaient à côté de moi, parce que je savais pas quoi faire, quoi. Et du coup, d'avoir cet espace d'écriture et de liberté, ça a été super, super, super libérateur. C'était vraiment une... Je pense que mon blog, ça a été vraiment le truc qui m'a fait prendre un aiguillage vraiment important dans ma vie. Et très honnêtement, je suis vraiment très consciente de la chance que j'ai eue à ce moment-là, parce que j'étais vraiment très, très malheureuse dans ma vie professionnelle. Vraiment. Et je voyais vraiment pas du tout d'issue. En fait, je me souviens qu'à ce moment-là, je sais ce que je faisais, parce que j'avais aucun modèle d'artiste auprès de moi, j'avais aucun modèle de journaliste. Je veux dire, tous les gens qui avaient dans ma famille, les femmes, souvent, elles travaillaient pas. Donc, les hommes faisaient des choses qui n'étaient pas des métiers qui me faisaient envie. Enfin, j'avais vraiment autour de moi pas de modèle autre que... tous les modèles que j'avais, en fait, me rendaient triste, quoi. Je trouvais que la vie, ça avait vraiment pas l'air marrant, quoi, quand on était adulte, et tout ce qui me paraissait génial et marrant, principalement être artiste, hein, on peut pas se mentir, me paraissait complètement inaccessible, donc je l'envisageais même pas, voilà,
ouais.
Tout simplement.
Ouais. Et ce blog, du coup, quand tu dis qu'il a été vraiment un virage, en fait, dans ta manière de... Enfin, ouais, dans ton cheminement professionnel et dans ta découverte aussi du bonheur de faire ce que tu faisais, dans quelle mesure tu peux nous expliquer en quoi justement il t'a permis d'aimer ce que tu faisais et qui t'a ouvert sur une carrière que tu assumais beaucoup plus et dans lequel tu prenais énormément de plaisir.
Alors, énormément de plaisir, avec le recul, c'est à prendre avec des pincettes, mais d'accord. Oui, enfin, en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup plus de plaisir que ce que je faisais à l'époque au Conseil Général, ça c'est certain. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'était que les blogs ont commencé à attirer l'attention déjà des lecteurs et donc des journalistes et de la presse. Et ensuite, c'est devenu le phénomène qu'on a tous connu si on a plus de 20 ans aujourd'hui. Oui. Et moi, en fait, je faisais partie de ces 10 personnes, 10 nanas qui avaient des blogs de filles, ce qu'on appelait ça à l'époque, des blogs de filles. Et qui ont été mises en valeur par la presse et par tout ça. Donc, à ça est arrivé tout de suite, évidemment, quand il y a quelque chose qui marche et qui attire l'attention du public, ça finit aussi très vite par attirer l'attention des entreprises, des marques qui cherchent à placer leurs produits, qui cherchent à se faire connaître. Donc, je dirais qu'au bout de 2 ans, il y a commencé à avoir une sorte de modèle économique qui était balbutiant et qui, évidemment, qui a connu plein, plein, plein d'aléas, mais assez vite, il y avait suffisamment de lumière sur moi et sur mes comparses pour que des entreprises, des marques, pas nécessairement pour faire de la publicité, mais des gens s'intéressent à ce qu'on produisait. Donc, en fait, dès cet instant, des personnes ont commencé à me proposer du travail. C'était pas... Alors, moi, j'ai fait très très peu de contenu type ce qu'on appelle aujourd'hui le contenu influenceur, qui consiste à faire la promotion de produits sur ton espace. Mais par contre, ce que ça m'a apporté, c'est qu'il y a beaucoup de marques qui se sont intéressées, qui ont voulu que j'écrive pour eux, qui m'ont proposé de faire des photos pour eux, qui m'ont proposé toutes sortes d'opportunités. Et ce qui a vraiment changé la donne pour moi, je dirais pour mon bonheur et pour mon malheur aujourd'hui, c'est qu'un jour, j'ai eu ce truc, encore une fois, mythique, qui arrive que dans les livres, jamais dans la vraie vie, d'une éditrice m'écrivant « Voilà, je lis votre blog depuis le départ, j'adore ce que vous écrivez, j'espère que vous avez des romans dans vos cartons, et si vous en avez, je voudrais les lire, s'il vous plaît, envoyez-les-moi. » Et voilà. Et j'avais pas de romans dans mes cartons. Enfin, j'avais des tas de choses que j'avais écrites, mais qui correspondaient pas du tout au ton du blog, qui était un ton un peu léger et futile, un peu le ton qu'on retrouvait dans les magazines à l'époque féminin. Et donc moi, ce que j'écrivais, ça avait rien à voir avec ça, c'était beaucoup plus torturé et sombre. Et du coup, j'ai un peu menti, j'ai dit oui, j'ai plein de choses dans mes cartons, laissez-moi 3 semaines et je vous les envoie. j'ai imaginé une histoire qui reprenait le ton un petit peu léger et humoristique.
C'était la
se voulait
de Pénélope B,
exactement, ouais. Qui se voulait humoristique Et je lui ai envoyé ce livre et bon bah voilà, comme toutes les belles histoires, elle a accepté le manuscrit et j'ai écrit mon premier roman de cette façon-là. Et pourquoi est-ce que c'était génial et à la fois pour mon bonheur et mon malheur, c'est que bah, pour mon bonheur, ça m'a permis de me lancer dans une carrière d'autrice, puisque donc j'ai écrit ce roman et puis un autre et puis encore un autre des années après, mais sous un autre nom. Et alors qui fait ma honte la plus totale, donc ne comptez pas sur moi pour vous dire ce dont il s'agit. Ouais, mais c'est pas, non, c'est pas ma honte la plus totale. Maintenant, j'ai dépassé la honte, mais pendant des années, ça a été vraiment un truc qui me mortifiait. Juste l'idée, juste quand j'y pensais, je pouvais rougir rien que d'y penser.
Bon bah heureusement du coup que tu l'as publié sous un autre nom finalement.
Ah oui, mais c'est en fait ça fait partie de ces livres où bon ça c'est l'économie du livre qui est bizarre, où en fait c'est la maison d'édition qui possède le pseudo de manière à pouvoir s'ils sont plus contents de vous, pouvoir faire écrire le roman par une autre personne. Poursuivre la série par une autre personne tout en gardant le pseudo. Donc c'est des romans écrits à la c'est comment dire ça, c'est du roman écrit à la chaîne un petit peu. Mais bon, c'est quand même un roman de 1000 pages, ou 1200 je crois, ou 1300 pages, donc ça m'a quand même beaucoup occupé. Et du coup pour moi ça c'est quelque chose qui est un tout petit pavé de papier, mais pour moi ça a occupé un grand espace dans ma vie. Et donc je dis ouais pour mon bonheur et mon malheur, parce que bah, j'ai commencé ma carrière d'autrice sur un gros malentendu qui était que j'ai écrit un roman léger et humoristique, alors que moi j'étais une personne tout sauf légère et tout sauf... je pense vraiment que écrire sur la légèreté, ça me permettait de l'être un petit peu plus, mais moi j'étais vraiment tout le contraire de ça. Et le drame, c'était que j'ai écrit des choses dont je n'aurais pas été lectrice moi-même, en fait. Et j'étais vraiment pas fière de ce que j'écrivais. Enfin, j'étais fière d'avoir réussi, parce que le jour où j'ai envoyé mon manuscrit, le manuscrit de la double vie de Pénélope B à mon éditrice, je pense quand même que ça reste un des plus beaux moments de ma vie. Ce moment où je me suis dit « Hey, j'ai vraiment écrit un roman, ça y est, j'ai... » même si il marche pas, même si personne le lit, même si tout le monde le déteste, il y a une chose que j'ai fait et que plus rien ne pourra m'enlever désormais, c'est que j'ai écrit un roman. Même si personne le lit jamais, j'ai écrit un roman. Et non seulement il n'a pas été lu par personne, mais il a fait, cette année-là, il était la première vente des premiers romans de la rentrée littéraire de cette année-là. Donc il s'est très bien vendu et ça a bien marché, mais du coup, ça a eu le malheur, enfin ma difficulté, c'est que ça m'a mis sur une route qui était vraiment pas une route sur laquelle j'étais à l'aise et dans laquelle je me sentais pas du tout bien dans mes baskets. Et ça faisait que j'étais toujours mal à l'aise des projets que je faisais, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, quand t'écris un livre, on te demande après d'en faire la promotion. Et pour moi, c'était difficile parce que je me sentais jamais vraiment... je vais dire le mot aligné qui m'énerve un petit peu, mais voilà, c'était ça, je me sentais... pas du tout alignée avec ce que je faisais et mes projets, et donc j'étais dans une sorte de friction permanente entre, bah oui, c'est ça mon travail, mais en même temps j'arrive pas à en être fière, quoi. J'arrive pas à dire aux gens genre, waouh, regardez, j'ai acheté ça, faut vraiment que vous l'achetiez, parce que vous allez voir, c'est vraiment canon ce que j'ai fait, quoi.
Je vois tout à fait, je comprends tout à fait.
Et c'est, pour moi, ça a été vraiment, vraiment très très difficile. Et j'ai pas, ça m'a pris 15 ans pour me sortir de ça, tu vois, donc... c'était vraiment pas facile.
Mais justement, c'est hyper intéressant tout ce que tu dis. Et moi, mon podcast, en fait, il aide les gens, en fait, à sortir de leur zone de confort, parvenir à cet alignement. Et donc, c'est hyper intéressant. Enfin, toi, t'es à fond dans le sujet et c'est aussi pour ça que je t'ai invité. Toi, comment tu as, du coup, réussi à parce que ça a quand même duré 15 ans, ce que tu dis, de pas forcément assumer tes projets. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour... au fur et à mesure, t'accepter et être fière des projets vers lesquels tu allais.
Ben, alors en fait, je pense que la difficulté, ça a été quand t'es dans une situation comme ça. Déjà, là, je te raconte l'aspect sombre, c'est parce que t'as commencé l'interview en me demandant comment j'allais, et ouais. Vraiment, tu vois, le parallèle entre de me sentir hyper bien maintenant et justement ben oui, c'est plus ça. Du tout dans ces tensions-là. Et comme j'étais, mais ça en vérité, si tu m'avais posé, enfin, si cette interview, on l'aurait fait il y a 5 ans, c'est pas du tout ce que je t'aurais dit, tu vois, c'est avec le recul que je me rends compte qu'il y avait une tension... qu'il y avait une tension très très forte dans ma vie sur entre ce que je, ce que enfin qu'il y avait un décalage énorme que je ne voulais pas voir, en fait. Que moi, j'arrêtais pas de me répéter que j'avais un métier génial et que j'avais trop de chance et que c'était super ce que je faisais, en fait. Je taisais
parce que c'était la société aussi qui te renvoyait ça, qui te disait c'est génial, j'imagine, ce que
oui,
tu fais.
Oui, en plus, exactement.
Compte, mais c'est... Enfin, tu peux être super fière puisque les gens admirent.
Exactement. Voilà, et... oui. Exactement. Il y avait, c'est exactement ce que tu décris. C'est-à-dire qu'il y a, eu un énorme, je pense, ça a pris de longues années pour moi de prendre conscience, parce qu'en fait, à chaque fois que j'exprimais un malaise, il y avait toujours quelqu'un pour me dire, mais arrête, mais c'est génial ce que tu fais. Par exemple, moi, je me souviens avoir plusieurs fois dit à ma maman, par exemple, dit à ma mère, dire, mais j'ai tout le temps l'impression d'échouer dans tout ce que je fais, en fait. Et évidemment, quand je dis ça, elle me dit, mais t'es folle, enfin, tu réussis hyper bien, financièrement, tu réussis bien, tes livres, ils se vendent bien, ton travail marche, enfin, comment est-ce que tu peux avoir ce truc-là? Et moi-même, je me disais, bon, bah, tu débloques, en fait, enfin, je veux dire, voilà, je me disais, bon, bah, c'est moi qui débloque, en fait, c'est pas normal d'être comme ça. Et en fait, je pense que le premier truc, ça a été, bah, de rendre conscient, d'amener à ma conscience le fait qu'il y avait un décalage entre ce à quoi j'aspirais et ce que je faisais, qui était colossal, et que ben, je n'osais pas l'envisager. Et puis il y a autre chose qui est que ben, quand tu approches la quarantaine et que tu as déjà une place dans un domaine, c'est difficile d'envisager de créer autre chose. Puis en vrai, j'avais pas trop d'idées en plus de quoi créer d'autres. Donc tout ça, ça a été un maelstrom de choses qui se sont décantées, je dirais, dans plein de domaines les uns après les autres. Et si j'essaye de trouver un petit peu la racine de ça, je pense que la première chose, ça a été quand vraiment, je pense, le fait d'avoir répété à plusieurs personnes successivement ce truc-là de « on me dit que je réussis tout le temps, sur le papier je réussis et moi j'ai tout le temps l'impression d'échouer et c'est horrible pour moi ». Ça me laisse un sentiment très amer et je comprends pas pourquoi j'ai cette impression d'échouer. Ben, je pense que le fait de l'exprimer, en fait, à un moment donné, c'est devenu une sorte d'obsession. C'est-à-dire, j'ai commencé à avoir l'obsession de bon, bah ben alors c'est quoi? Tu vois, enfin, ce truc où t'es vraiment fâché parce que tu trouves pas la réponse, mais que t'as quand même mis le doigt sur un problème que tu perçois comme étant majeur. Et puis ensuite, ben, ça c'est après le reste, je dirais que c'est un petit peu les grâces de la vie. Déjà, il y a eu un moment donné où j'étais épuisée, tu vois, moralement, c'était épuisant, donc j'avais plus aucun plaisir à faire les choses, j'étais fâchée après tous les éditeurs avec lesquels je travaillais, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait pas, j'étais de mauvaise humeur, enfin, j'étais en permanence de mauvaise humeur en lien avec mon travail, donc il a commencé à se profiler quand même l'idée que peut-être ce serait bien de faire autre chose. Mais je pense que la seule chose à faire dans ce cas-là, et c'est ce que j'ai fait, mais je pense qu'on le fait un peu comme un instinct de survie, ce truc-là, c'est qu'à un moment donné, bah, on se met à avoir des loisirs, on se met à faire d'autres trucs, on se met à lire. Ah, moi, j'ai eu une période où je lisais, mais de manière compulsive, dans plein de domaines différents, où je me suis rendu compte que, bah, quand même, que j'avais vraiment une curiosité qui était assez peu satisfaite, finalement, dans ma vie, parce que en plus, j'écrivais des livres pratiques, donc, encore une fois, des livres que moi, souvent sur des thèmes qu'on me demandait d'aborder de manière assez superficielle, et je pense que vraiment, moi, j'ai le contraire de ça, c'est que j'ai envie d'aller au fond des choses. Du coup, j'ai commencé à le faire un petit peu pour moi, à voilà, essayer de creuser plein de sujets. Et c'était passionnant, mais j'ai aussi assez vite perçu que ça c'était à la fois galvanisant, mais que ça demandait une énergie folle. Et j'ai eu une chance inouïe qui a été qu'une de mes cousines, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui a 15 ans de moins que moi, dans sa vie professionnelle, a commencé des études d'art. Et en fait, je rêvais, mais vraiment, quoi. Des fois, je l'appelais juste pour qu'elle me raconte ce qu'elle faisait dans ses journées. Alors, c'était simple, j'avais l'impression qu'elle menait ma vie rêvée. Et je pense qu'elle a saisi plus vite que moi que vraiment, il y avait un domaine que j'avais besoin d'explorer à travers la peinture et le dessin. C'est elle qui m'a offert ma première boîte de peinture. Et puis, c'est comme ça que j'ai découvert le dessin et l'aquarelle. Et je crois que ouais, j'ai dû pratiquer l'aquarelle pendant une bonne année. Et l'année dernière, enfin il y a un an et demi maintenant, en décembre 2019 du coup, fin décembre 2019, en me baladant sur le blog d'une aquarelliste botanique que j'aimais bien, j'ai vu qu'elle avait fait une formation. Et je ne sais pas comment dire ça, enfin sur le sujet de l'aquarelle botanique, mais à la seconde où j'ai lu son truc, j'ai fait, ok, En fait, je sais pas pourquoi toutes les... Non seulement je me suis dit, je veux faire ça. Bon, ça, ça a été impressionnant, parce que j'ai pas souvent vécu ça dans ma vie. Une sorte de certitude qui n'a aucun sens. Enfin, je veux dire, qui paraît sortir de rien, tu vois, qui paraît pas... qui est pas le fruit d'une réflexion ou d'une maturation de quelque chose. J'ai eu l'impression que ça m'est tombé dessus, mais vraiment d'un bloc, où je me suis dit, ok, je veux faire ça, mais pas juste je veux faire cette formation, ça a été, ok, je veux faire ça de ma vie. Et c'était il y a 2 ans et demi, à peu près, c'était en décembre 2019. Tu vois, il n'y a pas très longtemps. Mais bon, j'avais déjà commencé à faire de l'aquarelle. J'avais aussi ma formation photo en ligne que j'avais... qui marchait bien. J'avais monté sur mon, d'après mon blog, une formation photo en ligne qui m'amusait beaucoup aussi, que j'aimais bien faire. En fait, j'aimais bien faire ça. J'adore faire de la photo, j'adore expliquer aux gens, donc c'était vraiment un plaisir de le faire. En revanche, là où ça commençait à coincer pour moi, c'était que j'étais pas assez passionnée de photo pour avoir envie d'en faire tout le temps, et du coup d'avoir envie de progresser tout le temps sur le sujet et de me former tout le temps sur le sujet.
Mais je comprends donc, tout à fait, en fait. Je pense que c'était... Il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient. Excuse-moi, je suis malade. Il y avait beaucoup de choses qui t'intéressaient. Et en fait, finalement, mais pas une seule chose sur laquelle te centrer pour consacrer toute ton énergie. Pas assez.
Exactement.
Donc, en fait, je pense que tu avais un petit peu de photos, un petit peu de copywriting, un petit peu d'écriture, exactement, un petit peu... Mais pas trouver cette chose qui... pour laquelle tu étais prête à consacrer ta vie, finalement.
Exactement. Et puis surtout, il y avait... Alors ça, c'est exactement ça. C'est tout à fait vrai. Et il y avait un autre volet, je pense, qui m'a beaucoup coincée. C'est que j'avais fini par perdre de vue que moi, j'aime écrire, mais j'aime écrire comme une artiste écrit. C'est-à-dire que moi, j'écrivais pas du tout. Enfin, je veux dire, mon travail n'était pas ce qu'on attendait de moi. C'était pas d'être une artiste. C'était de savoir écrire, de le faire bien, de le faire le plus vite possible et d'être le plus rentable possible. C'était ça. Et surtout d'être heureux. Enfin, voilà, c'était assez peu rentable pour moi, mais pour eux, enfin, moi, j'ai une grosse capacité de travail, j'arrivais à me rattraper parce que je travaille beaucoup, mais, et donc à obtenir des revenus satisfaisants. Mais du coup, bah, je passais mon temps à écrire, mais, mais ma petite âme d'artiste n'était pas du tout impliquée dans ce process-là. Et il y avait aussi cet aspect-là qui était vraiment, vraiment pas évident. Et du coup, le truc de l'aquarelle botanique, je pense que ça aurait pu, sincèrement, je pense qu'une autre discipline aurait pu me plaire. C'est sûr que dessiner, c'est quand même quelque chose que j'aimais déjà depuis que c'est pas nouveau, je me suis pas mise à dessiner tout à coup. J'ai eu des tas de périodes dans ma vie où j'ai commencé à abandonner parce que ça me paraissait trop compliqué. Mais vraiment, à ce moment-là, j'ai eu un truc de « ok, c'est ça que je vais faire ». Et puis, je pense quand même qu'on a le cerveau qui est bien fait, c'est-à-dire que ça a été comme une sorte de décision à la fois très forte et qui paraissait un petit peu sortie du chapeau. Mais en même temps, ça, je veux dire, j'ai une très longue expérience sur Internet. J'avais déjà ma formation photo qui m'a quand même appris à créer une formation, à faire les choses. Je sais un peu comment communiquer, même si c'est pas mon point fort, je sais quand même le faire. J'avais déjà des outils, il y avait du coup cette communauté déjà qui me suit et qui en plus me voyait progresser à l'aquarelle et qui, bah, je sentais que ça développait aussi des envies et puis le désir peut-être d'apprendre aussi. Et il n'y a pas forcément énormément de choses en français sur le sujet, enfin sur le sujet de l'aquarelle botanique en tout cas. Donc je pense qu'à la fois s'il y avait une sorte de, tu sais, d'absurdité, de trucs qui te tombent sur la tête un peu brutalement, et à la fois je pense quand même que mon cerveau avait fait les connexions et était capable d'avancer suffisamment sereinement pour se dire cette aventure est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est gagné d'avance, mais cette aventure est possible. Et donc bah, à partir de ce moment-là, je me suis agrippée presque un peu avec l'énergie, j'allais dire l'énergie du désespoir, mais c'est pas vrai parce que c'est pas du tout du désespoir qui anime, qui me fait me lever le matin, et c'est plutôt de l'enthousiasme et de la joie. Donc, mais avec en tout cas une énergie très très forte de ok, maintenant il faut que je prenne un virage fort, il faut que j'ai le courage de prendre ce virage. Et c'est bizarre parce que moi je pensais que ma vie ce serait d'être écrivaine et ce serait d'écrire des livres et ce serait de publier des romans, et bon bah. En fait, ça va pas être ça. Et en fait, quand tu t'es construit entièrement, intégralement et puissamment autour de cette idée, je pense que c'est très, très difficile. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'était très difficile. Mmh. Ouais. Tu sais, c'est même pas déconstruire, là. Ça a été, mais genre, donner le plus gros coup de pied que je pouvais donner dans cette fourmilière. Et puis même, tu sais, ton entourage, dans ce cas-là, il est un peu genre...
Désarçonné.
C'est quoi cette affaire ? Bien sûr que oui. Puis en plus, vraiment, je suis très chanceuse. Il y a eu beaucoup de gens toujours autour de moi à me trouver douée pour l'écrit. Donc à me dire, mais comment ça ? Enfin, c'est quoi cette histoire de pas écrire, en fait ? C'est pour ça que t'es douée, c'est ça ta vie. Et en fait, j'ai quand même rencontré, pas des résistances au sens de... Mais je sentais bien un petit peu que ça détruisait un peu aussi mon identité auprès des autres.
C'est drôle parce que je trouve pas ça si loin pourtant, tu vois, l'écriture et l'aquarelle, parce que finalement ça reste la créativité, ça reste la démarche créative. Absolument. Donc c'est drôle, je pense. Enfin, je trouve pas ça si loin finalement.
Non, mais moi non plus.
Assez connecté.
Exactement, mais finalement, moi aussi, mais c'est parce que je pense que moi vraiment j'avais construit une identité, mais tellement solide autour de ce projet d'écriture que j'étais la première prisonnière de ça, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est marrant parce que ça fait 2 ans là déjà que j'ai arrêté, donc j'ai vraiment. Alors, il m'arrive d'accompagner encore des auteurs, j'adore le faire. J'adore accompagner des auteurs, c'est vraiment un plaisir et je crois que je le fais bien en plus, j'espère que je le fais bien. En tout cas,
ça consiste en quoi l'accompagnement d'auteur ?
Ça peut être plein de choses, ça peut être aider un auteur à retoucher son texte si lui-même se sent pas trop une fibre d'écriture mais a quand même quelque chose à dire. Ça peut être le suivre d'une manière plus émotionnelle, c'est-à-dire l'aider... le coacher un petit peu, lui donner du courage, ouais. La motivation, ça peut être discuter de son texte en cas de questionnement par exemple, quand quelqu'un a jamais écrit, n'a pas l'habitude d'écrire, il peut ne pas avoir, même dans le domaine du livre qui n'est pas romanesque, moi j'accompagne plutôt des auteurs qui vont s'engager dans un projet de récit, par exemple, ou même un livre pratique sur un thème dont il est expert. Et du coup, c'est pas forcément des gens qui ont un sens de la narration au départ. Et en fait, même dans un livre pratique, pour qu'un livre soit sympa à lire, il faut quand même qu'il y ait un ordre, une narration, des moments un petit peu de suspense, de tension, de choses. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui font qu'un lecteur va au bout de sa lecture. C'est-à-dire, il suffit pas d'avoir un sujet intéressant pour pouvoir le faire passer. Il faut encore, il y a des petites astuces à développer. Donc moi, parfois, mon travail, c'est d'aider l'auteur à prendre conscience de ça et éventuellement de retravailler, de discuter son texte pour le rendre le plus... Moi, souvent, je pense que mon rôle, c'est d'être assez passionné par le sujet de l'auteur, pour avoir vraiment envie à tout prix que son texte, les gens ne soient pas arrêtés ou se sentent pas grippés dans leur lecture par quelque chose qui les empêche d'avoir accès à la substance de ce que l'auteur veut dire, tu vois. Et ça, c'est vraiment un travail que je trouve... je me sens toujours super privilégiée d'être la personne qui essaye d'être un peu le passeur de ces connaissances qui parfois sont un peu brutes et qui... et pas toujours, parce que parfois aussi, les auteurs, c'est des auteurs en puissance ou des premiers auteurs qui ont une vraie fibre littéraire, mais qui... parfois manque un peu de confiance en eux. Donc mon travail aussi, c'est juste de leur dire, mais en fait c'est vraiment bien ce que tu as écrit, c'est vraiment beau, voilà. Et mon travail, c'est d'être cette personne, et j'aime bien quand je fais ça. Je le fais pas beaucoup, mais quand je le fais, c'est un vrai privilège.
Je comprends tout à fait, parce qu'une de mes activités, c'est d'accompagner les personnes à créer leur podcast. Et j'ai beaucoup, et à ma plus grande surprise, au début, je pensais que ça allait être plutôt des techniques, choix de sujet. Et j'ai beaucoup de mes clients, c'est vraiment un manque de confiance, un manque de légitimité, la peur de poser leur voix, la peur de poser des questions, la peur d'aller à la rencontre de l'autre. Enfin, il y a plein de sujets comme ça, un peu plus psychologiques, que j'aurais jamais... imaginer avec la création d'un podcast. Donc, ça me fait vraiment penser à ce que tu dis.
Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment surprenant. C'est vrai que moi aussi, je pense qu'au départ, j'aurais plus pensé aux aspects techniques à transmettre. Et en fin de compte, pas du tout, quoi.
Ouais, exactement. Exactement. Et si on reparle un petit peu de ta nouvelle activité, donc d'aquarelle botanique, avant de parler du sujet de la créativité, du développement personnel qui me passionne, toi, quelles sont les actions, en fait, un peu concrètement, que tu as pu mettre en place dans ton virage, en fait, vers cette nouvelle activité, pour toi et puis aussi aux yeux de la société ?
Alors, pour moi, ça a été tout simplement déjà de verbaliser que c'était ça que j'allais faire maintenant, que j'avais pas la moindre idée de En fait, j'avais pas la moindre idée de rien. Ça veut dire que j'avais pas étudié le marché, comme on dit. J'avais pas réfléchi à est-ce que c'est viable, est-ce que combien de temps ça va me prendre, combien est-ce que ça va me coûter s'il faut que je me forme, comment faire. J'ai un peu pris les choses comme c'est comme ça et c'est ça que je vais faire. Et en fait, alors moi j'ai la chance quand même. Il y a quand même une chose, c'est que déjà je pense qu'à 40 ans, on démarre jamais de zéro, quelle que soit notre situation. Le truc de repartir à zéro, ça n'existe pas vraiment parce qu'on a quand même forcément un bagage de plein de choses dans plein de domaines. Et moi, mon bagage, c'est le fait d'avoir créé une communauté à partir de Cachemire et Soie depuis 15 ans. Et d'avoir des personnes qui, du coup, ont suivi mes progrès, ont suivi mes tentatives du dimanche d'aquarelle, m'ont encouragé, ont vu ça. Et du coup, au moment où j'ai décidé que j'allais lancer une formation sur ce thème, il y avait déjà de l'intérêt pour ça. Il y avait déjà de l'intérêt pour ça, donc je savais que je partais pas de rien, tu vois. C'est-à-dire que mon travail essentiel, ça a été de me dire, d'essayer de me mettre à la place des personnes, c'est-à-dire de quoi elles vont avoir besoin si elles sont complètement débutantes et comment faire pour leur permettre d'accéder à ça. Et puis, la chance que j'ai eue, c'était que j'avais déjà moi-même, j'étais toute fraîche en fait, je venais déjà d'expérimenter plein de choses, j'avais eu plein de révélations dans l'aquarelle, plein de moments où j'avais pu me dire, là ça y est, j'ai galéré pour ça, puis à ce moment-là j'ai trouvé telle chose pour m'aider. Donc je suis encore, même encore maintenant, je suis remplie de l'énergie du débutant, tu vois, de tous les trucs où tu galères, de toutes les questions que tu te poses, de tout ça. Donc, j'ai tout de suite réfléchi au fait que c'était là-dessus que je voulais capitaliser, en fait, sur le fait que certes, je suis pas une enseignante qui a 20 ans de métier et du coup qui a des connaissances incroyables à transmettre, mais par contre, toutes les questions du débutant, elles sont tellement fraîches en moi, qu'il y en a un certain nombre que j'ai déjà résolu. Du coup, je vais réfléchir à comment articuler mon premier travail d'enseignant sur les premières questions de débutants que moi j'ai déjà solutionnées, que quand tu es débutant, avec lesquelles tu galères. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai réfléchi. Ensuite, j'avais déjà ma formation photo qui existe toujours d'ailleurs, hein, dont j'ai juste pas fait la promotion depuis presque un an maintenant, mais qui existe toujours et donc sur laquelle je me suis appuyée, hein, qui était une source de revenus qui m'aide à faire la transition, puis qui est bien. C'est juste que je voudrais, du coup je suis tellement occupée à mes autres activités que je n'en fais pas la promotion, j'en parle pas, mais elle est toujours accessible et je la trouve chouette. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'intention spécifique de l'abandonner, mais j'ai aussi envie de me centrer vraiment, enfin, exactement, tu vois, pour faire la boucle avec ce qu'on disait au départ, j'aimerais bien ne plus être dispersée dans un millier d'activités, quoi. Voilà. C'est vraiment délicieux de mettre toute son énergie au service d'un seul et même projet, je dois dire. C'est vraiment un plaisir de... Avant, j'avais l'impression d'être un jongleur qui tentait en permanence de pas faire tomber ses balles, et qui n'y parvenait pas souvent d'ailleurs, d'avoir toutes les balles au même moment et qu'il n'y en ait pas deux ou trois par terre. Là, maintenant, c'est vraiment... C'est tellement plus facile, en fait, de...
Bien sûr, de défendre un projet.
Et, vraiment.
Et c'est exactement ça. Et en termes de... Et après, vraiment, je passe à la créativité. En termes de positionnement, parce que c'est un sujet aussi qui est pas mal qui est intéressant et que... Il y a quelques jours, justement, j'ai parlé avec quelques-unes de mes auditrices qui me parlent de souffrir de leur multipotentialité et qui me parlent en termes de positionnement et en termes d'image, justement, à quel point ça peut être difficile, comme tu dis, de jongler entre plusieurs casquettes, plusieurs activités. Toi, au niveau de ta communauté et en termes de positionnement par rapport à ta communauté, comment ça se dessine tout ça? Est-ce que ta communauté arrive à comprendre tout ce que tu fais, pourquoi tu le fais, comment tu le fais? Tu parles de difficulté justement à avoir plusieurs casquettes. Est-ce que c'est aussi par rapport à l'image que tu peux renvoyer par rapport à ta communauté?
Je sais pas si du coup, c'est très clair, mais du coup, je vais te répondre en deux fois et je vais d'abord faire une petite digression par rapport à ce que tu me poses comme question par rapport à la relation avec la communauté qui suit mon travail.
Ouais.
La première chose que je voudrais dire, c'est que Bah oui, je pense que pour le coup, la question de multipotentialité et de souffrir de ça, je peux vraiment en parler du sujet parce que c'est de ça dont on parle hein, finalement depuis. Donc c'est vraiment un sujet dont je pense que j'ai fait pas mal, j'ai pas mal d'expérience. Et je pense qu'il y a une chose dont j'avais pas conscience, vraiment, c'était que elle pouvait s'exprimer la multipotentialité au sein d'un seul et même projet. Et c'est vraiment, je vais le redire, c'est que la multipotentialité, elle peut et elle s'exprime au sein d'un même projet. C'est-à-dire que moi, j'ai beau aujourd'hui être, voilà, avoir décidé que mon projet de vie, jusque sans doute à la fin de ma vie, c'est d'enseigner l'aquarelle botanique et de devenir aquarelliste botanique, illustratrice et de vivre de ça. En réalité, je fais ça, mais je fais aussi, bien sûr, de la communication. J'ai un site internet à maintenir, j'ai des relations à entretenir, je découvre, j'ai tout un tas de projets qui se présentent à moi, qui sont complètement inattendus. En réalité, j'ai 25 métiers comme n'importe quelle personne qui serait entrepreneur. J'ai 25 métiers à travers mon métier. Par exemple, quand j'ai lancé ma petite émission en direct quotidienne que je fais survivre et créer depuis un mois, ben, il a fallu que j'apprenne à faire des émissions en direct. Et comme je voulais pas que ce soit juste un cadre basique, j'ai voulu pouvoir l'habiller. Du coup, j'ai découvert le logiciel pour faire de l'habillage du stream. Et donc maintenant, je suis en train de me dire, mais du coup, je voudrais streamer sur d'autres plateformes et comment faire. Donc, en fait, il y a une énergie créative et intellectuelle qui est déployé dans de multiples directions en permanence. Mais par contre,
Oui.
c'est au service, tout ça est au service d'un seul et même projet. Et en fait, moi, ça c'est, je le dis parce que vraiment, je pense que je n'avais pas du tout saisi que mon besoin de faire des tas de choses différentes pouvait être parfaitement rassasié en me centrant sur un seul projet. Voilà, ça c'est
Oui.
le truc. Comme tu disais que tu avais des personnes qui disaient qu'elles souffraient de
Oui.
cette difficulté, moi j'ai vraiment trouvé une solution concrète à ça à travers le fait de, au contraire, me rassembler mes forces autour d'un seul projet. Et la deuxième question, c'est la question de la communauté. Alors pour être franche, c'est une difficulté que j'ai. Je pense que je perds un peu les gens en cours de route. Et j'en suis désolée, et je n'ai pas trop de réponses. Pour l'instant, je pense que oui, c'est ça qui se passe. Je pense que les gens sont parfois un peu perdus. Et c'est même la question que tu poses, je dirais, c'est un des gros sujets qui est dans ma tête à l'ordre du jour depuis plusieurs mois, hein, qui est pas, ça date pas d'hier. Et très sincèrement, j'ai pas de réponse, mais c'est quelque chose que je garde en tête parce que j'espère trouver des solutions. Mais pour
Oui.
l'instant, c'est assez difficile. Je ne sais pas. Je sais pas, j'ai Oui, c'est un problème et j'ai pas de solution. Voilà.
C'est très clair.
Mais c'est pas grave, hein.
Bah
C'est pas
bien
du tout.
sûr, c'est pas grave.
C'est
Oui,
juste, voilà,
oui.
c'est juste. Alors j'essaye de trouver des. Puis les réseaux sociaux, c'est quand même un monde complexe parce que c'est comme
Oui.
c'est protéiforme, ça évolue tout le temps. C'est
Tout le temps.
vraiment pas évident de. Ben, je trouve que ça nécessite de se réinventer tout le temps. Et c'est pas
Oui.
facile de se réinventer tout le temps, je trouve. Mais bon, maintenant j'ai un peu pris mon parti des choses. Je veux dire que je me contente de me dire, bon, mon activité, elle marche assez. Oui. Bon, alors je fais ce que je peux, je prends les problèmes l'un derrière l'autre. Et voilà. Donc oui, ça fait vraiment partie des problématiques que je rencontre. Mais pour l'instant, j'ai pas de solution. Voilà.
Ouais, bien sûr. Si on parle un petit peu de créativité, je voudrais aborder avec toi ce sujet aussi parce que je pense que la créativité, comme toi, ça t'a permis, ça permet de se développer personnellement, ça permet de se développer professionnellement, ça permet enfin, de sortir de sa zone de confort finalement pour être plus aligné et pour se connaître mieux. C'est quoi pour toi déjà être créative?
Alors pour moi, être créative, je ne suis pas sûre que ce soit tellement c'est assez difficile pour moi parce que finalement, je trouve que être créatif, c'est pas tellement en lien avec l'expression artistique. Et je trouve qu'on a tendance à mélanger un petit peu les deux. Moi, je trouve que souvent, être créatif, c'est plus, ça va plus être, tiens, par exemple, cette question de, bon, bah voilà, sur les réseaux sociaux, je vois bien que ma communauté, elle est super, elle est engagée, mais j'ai tendance à la perdre un petit peu parce que je l'emmène dans des tas de directions et il y a cet algorithme-là qui permet pas d'avoir un suivi, en fait, parce que comme les publications s'annoncent ou se montrent ou pas, c'est difficile d'avoir une narration constante et qui emmène les gens d'un point A vers un point B, puis un point C, puis un point D, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils voient, on ne sait pas quand est-ce qu'ils les voient. Il n'y a pas cette énergie-là. Et du coup, pour moi, la créativité, ça va être de se dire, bon, la problématique, c'est ça. Les cartes que j'ai en main, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on tente avec ça? Pour moi, la créativité, c'est ça, alors que l'expression artistique, avec laquelle je trouve qu'on la confond beaucoup, moi, je la ressens personnellement plus comme l'expression poétique de quelque chose. Ça veut dire, quand j'ai le sentiment de faire appel à ma créativité, j'ai plus le sentiment d'être, je sais pas, quelqu'un qui joue au Lego, tu vois, quelqu'un qui cherche à trouver des solutions un peu inédites. Il y a aussi la notion d'inédit, ça veut dire, typiquement, ma petite émission quotidienne, Le Petit Lever, ça a été une réponse à ma problématique de départ, c'était les réseaux sociaux, c'était de me dire, moi vraiment, Instagram, j'adore ça, mais je peux pas y consacrer ma journée, puisque ma journée, elle doit être consacrée à créer de nouveaux projets pour mon cours d'aquarelle botanique, pour mon club d'aquarelle, qui est où tous les mois, tu as un nouveau projet à accompagner, plus moi, me développer en tant qu'artiste, apprendre, faire des choses. Donc, je ne peux pas passer ma vie sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Sinon, j'y arriverai jamais, je vais devenir quelqu'un qui passe sa vie sur les réseaux sociaux et qui, du coup, va peut-être devoir... Voilà, je voyais pas comment me développer en tant qu'artiste et passer mon temps sur les réseaux sociaux à promouvoir mon atelier qui est ma source de revenus. Donc, je me suis dit, ce que je peux faire, c'est me dire que j'ai une fenêtre quotidienne de 1 heure, par exemple, et qu'est-ce que je vais faire pendant cette fenêtre quotidienne? Et je me suis dit, ce que je pourrais faire, c'est 20 minutes de peinture par jour, et du coup, ça me fait du contenu. Ça me fait du contenu à proposer. Déjà, tous les jours, il y a une émission quotidienne, donc je suis en direct avec les personnes. Je leur propose simplement de peindre 20 minutes par jour avec moi, parce que on dit partout que 20 minutes, c'est déjà suffisant. Voyons si c'est le cas. Et juste, le propos est tout simple, c'est on est ensemble de 8h à 8h20 pour commencer la journée par un truc qu'on aime faire. Yep, ça, c'est tout simple. Et puis, en ce faisant, en plus, moi, ça me permet du coup d'avoir 20 minutes par jour pendant lesquelles je crée quelque chose et dont je peux peut-être ensuite faire quelque chose pour alimenter mon compte Instagram. Et donc, voilà, tu vois, pour moi, ça, c'est une réponse créative et un peu inédite, parce que personne ne fait ça. A priori, j'ai pas vu de personne créer une petite émission comme ça avec un habillage d'émission, un générique de début, un générique de fin, tout le truc. Et pour moi, c'est ça la créativité. C'est vraiment rencontrer une difficulté et chercher des solutions inédites à cette question. Pour moi, ça, c'est la créativité, mais je la distingue quand même beaucoup de l'expression artistique qui, pour moi, se rapproche plus d'une contemplation un petit peu et d'une réflexion sur peut-être plus philosophique ou plus existentielle ou plus méditative et où on livre le fruit de cette méditation de manière, ça peut aboutir à un texte, ça peut aboutir à une poésie, ça peut aboutir à une peinture, un dessin. Mais pour moi, c'est deux choses assez distinctes. Alors que j'ai l'impression qu'on a tendance à vraiment les mettre dans le même panier.
Ok. Voilà. Sur ton site Vivre et Créer, tu dis « Je suis artiste et je sais à quel point l'acte créatif peut transformer une vie ». Moi, c'est vraiment cette phrase qui m'a interpellée, qui m'a vachement parlé, parce que justement sur mon podcast, j'ai beaucoup d'auditeurs en fait en recherche d'épanouissement et de bien-être, et qui par la créativité pourraient booster finalement leur confiance et leur développement personnel pour oser dans d'autres sphères. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as voulu dire par là?
Alors oui, ça pour moi, c'est vrai. Alors pour le coup, c'est vraiment en lien avec l'expression de soi. Et ce que j'appelle l'expression de soi, c'est ce qui surgit quand on se met soi-même en état de comme une sorte d'état intérieur de présence et de silence au service de quelque chose qu'on fabrique, qu'on crée. Donc en l'occurrence, ça peut être un tableau, un dessin. Et typiquement, pour quelqu'un comme moi qui est très, très, très rempli de pensées, rempli de questions, rempli de tout ça, c'est un vrai moyen de faire taire cette sorte de logorée intérieure. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est de la transcender un petit peu, de la canaliser et d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que non seulement ce brouhaha intérieur se calme, mais en plus de se calmer, c'est comme si tout à coup des tas de choses éparses se mettaient en ordre de marche, en file indienne, et aboutissaient à quelque chose. Et ce quelque chose, ça peut être, c'est pas nécessairement le fruit de cette pensée, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement l'aboutissement d'une suite de pensées qui aboutit à une réflexion ou à une conclusion de quelque chose. C'est plus comme le résultat de cet état, de cet état dans lequel les choses se mettent en ordre intérieurement, et même, je dirais, je pense, d'un point de vue corporel, au bout d'un moment, on finit par trouver son geste, je sais pas comment dire ça, mais son geste, et ça, et de ça résulte une production qui, alors bon, mon sujet à moi aujourd'hui, c'est l'aquarelle, et vraiment, je pense qu'en plus, l'aquarelle, mais c'est vrai aussi pour la photographie, en fait, il y a cet état de, je pense aussi, d'observation, de quand on est notamment comme moi très introverti, il y a quand même un élan vers l'extérieur quand on peint une fleur ou quand on photographie une fleur ou un paysage ou même une personne. C'est vraiment un élan vers l'autre, mais un élan comme quand on est comme en situation quand même d'observateur. Ça veut dire on va vers l'autre, mais je sais pas comment dire, on reste en même temps complètement soi-même. C'est pas, on sort pas de soi, on reste soi-même, mais c'est un élan vers l'autre. Et je pense que l'acte créatif, il permet vraiment d'être dans des états, d'être différemment. Et c'est ça, d'avoir une intériorité qui se déploie complètement différemment et qui est comme canalisée, en fait, là où peut-être dans le quotidien de la vie, on peut sentir une sorte de friction avec ses pensées, avec ces tensions-là. J'ai l'impression que de donner du temps pour exprimer plus que sa créativité, j'aimerais dire son art, même si c'est un mot qui fait vraiment peur, j'en ai bien conscience, mais je pense que c'est vraiment un moment de résolution de toutes ces tensions intérieures qui peut surgir. Et c'est pour ça que, indépendamment de la production, de ce qui en résulte, à savoir est-ce qu'on est content de soi, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, est-ce qu'on est fier, est-ce qu'on n'est pas fier, est-ce qu'on a envie de le montrer, pas le montrer, etc. Je pense que juste de se donner ce temps-là à soi-même, quoi qu'il arrive, si on est quelqu'un qui éprouve comme ça de nombreuses tensions intérieures, et je pense que quand même la plupart d'entre nous, on vit ça, ben oui, l'art et la créativité, ce lieu-là, c'est vraiment un espace qui peut permettre de trouver une manière que ce soit plus des tensions, de transformer ça en quelque chose de beau, en fait.
Oui.
Voilà.
Et je dirais aussi, j'ajouterais que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qu'on est pleinement nous-mêmes aussi, finalement, dans l'acte oui. créatif. Et on a une notion ouais, de liberté, de pleine conscience de soi. Est-ce que tu es d'accord avec cela ?
Oui, absolument. C'est en fait, c'est ce que j'entends par l'état un peu de résolution, de résoudre quelque chose. Ça veut dire à un moment donné, il n'y a plus de tension. On est vraiment pleinement, on n'est plus en tension intérieure avec soi-même. En fait, on n'est plus en conflit avec nous-mêmes. On est juste là à faire ou à ne, enfin à faire. Je ne sais pas si faire, c'est juste en général, il y a un acte en fait. Il y a quand même quelque chose qui se produit, mais on est juste là à être nous-mêmes. Et c'est sûr que c'est un personnellement, j'en retire un bienfait. J'arrive même pas à le nommer, en fait, à tel point, à quel point pour moi, écrire ou peindre ou prendre des photos, c'est essentiel à ma vie. Tellement, c'est un état, je suis droguée, en fait, à cet état. je trouve que c'est vraiment un lieu de résolution de soi. Et d'attention à soi aussi, tout simplement. C'est-à-dire que moi, par exemple, la méditation, c'est un truc que je n'ai jamais réussi à faire, ça m'ennuie, enfin, j'y arrive pas, quoi. Alors que je crois que c'est très très proche, le fait d'écrire, le fait de peindre, le fait de dessiner, de prendre des photos, même de faire de la musique, enfin, toutes les formes d'expression artistique me paraissent proches de la méditation en ce sens qu'elle canalise quelque chose en nous et qu'elle relâche les tensions de notre être. Voilà, au même titre qu'on a des tensions physiques, bah, l'acte créatif, il relâche les tensions de notre être. Et comme tu dis, ça fait qu'à ce moment-là, on se sent pleinement nous-mêmes. Et l'autre chose importante, c'est que ce que je crois aussi profondément de se donner du temps pour ça, c'est que en le faisant, en fait, c'est comme une sorte d'école de la vie dans un cadre sécurisé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus tu fais ça à ce moment dédié à la création, plus dans ta vie personnelle, à plein d'autres niveaux, tu es capable de faire taire aussi ces tensions. Tu vois, quand tu les sens survenir, plus c'est comme une sorte d'entraînement à se sentir bien. Je sais pas comment, je sais pas si je le décris bien, mais c'est comme si, tu vois, par exemple, moi, ce fait là, tous les jours, de décider que je fais 20 minutes de peinture tous les matins en me levant, c'est vraiment... Puis alors là, du coup, maintenant que je l'ai... Avant, c'était de la théorie, mais maintenant que ça fait un mois que je l'expérimente, un mois et demi, je peux vraiment le ressentir en moi. C'est vraiment une manière de commencer la journée par ce sorte de... la plénitude, elle est là. Et elle est comme ça. Et du coup, c'est comme si tout au long de la journée ensuite, j'avais l'écho de ce moment-là que je pouvais convoquer presque n'importe quand, en fait. Et je pense que c'est ça que ça apporte. C'est que ça apporte pas simplement les 20 minutes qu'on se donne ou l'heure qu'on se donne de manière hebdomadaire ou quand on a le temps, quand on peut, parce que je sais qu'on a tous des vies où il n'est pas toujours facile de faire rentrer les choses qu'on voudrait faire rentrer dans nos agendas. Mais je pense que c'est vraiment un lieu où après on peut puiser, même en dehors de cet espace-là, pour se retrouver soi-même, pour se recanaliser. Ah, j'aime pas ces mots-là, se recanaliser, mais voilà, se recentrer ou... Voilà.
D'accord. Et est-ce que tu dirais que c'est quelque chose d'inné, enfin lié au talent artistique, si tu veux, l'acte créatif, ou finalement que ça se travaille et que ça peut s'améliorer, si je connais la réponse.
Alors, je peux témoigner des deux choses, puisque on va accepter l'idée que je suis douée pour écrire, puisque c'est ce qu'on me dit depuis toujours, et qu'effectivement, j'ai jamais éprouvé aucune difficulté à écrire, et que par contre, dessiner et peindre, c'est quelque chose que j'ai vraiment dû apprendre comme on apprend à marcher, c'est-à-dire en ne sachant pas du tout, et en apprenant à le faire. Mais du coup, j'ai vraiment l'expérience de ces deux trucs, donc ma réponse à moi, c'est que on peut choisir de s'appuyer sur quelque chose qui nous paraît être facile et fluide, ou s'appuyer sur rien et se dire c'est ça que j'ai envie de faire et donc je vais apprendre à le faire. Mais en fait, pour moi, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue, parce que si par exemple tu prends je vais prendre l'exemple du piano, je joue un peu de piano aussi. En fait, un pianiste, quoi qu'il arrive, il est dans une... En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans une démarche d'apprentissage et de curiosité. Et en fait, peu importe que tu partes de zéro ou que tu aies déjà un niveau de connaissance ou de savoir-faire incroyable, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui sont en chemin dans leur activité créatrice et créative, elles sont en apprentissage. Et en fait, peu importe que tu aies déjà plein de connaissances ou pas de connaissances du tout, en fait, tu fais la même chose. C'est-à-dire que tu fais exactement la même chose. Quand moi, je regarde un pianiste qui travaille son piano, fondamentalement, il fait la même chose que le débutant qui prend son premier cours de piano. Il est en train de passer d'un point A à un point B, ça veut dire d'un endroit de je souhaite, j'ai ce projet, tel morceau, j'ai ce projet, et j'ai cette idée, j'ai cette couleur que je voudrais faire advenir, et pour l'instant, je sais pas le faire, je sais pas comment je vais y arriver. Et donc, c'est cet espace de curiosité, un petit peu, parfois d'inconfort, parfois de tout ça, de j'ai cette idée en tête et je souhaite la mener dans la réalité, en fait. Et que tu sois débutant ou que tu aies 20 ans de métier, c'est exactement la même chose qui s'opère, en fait. C'est que même quelqu'un qui a 20 ans de métier, il est toujours dans une situation de j'ai cette image et je voudrais qu'elle arrive et je ne sais pas comment m'y prendre. Et je vais réfléchir à comment faire, je vais essayer des choses. La plupart du temps, je vais échouer, puis à un moment donné, ça va me donner une réponse, et cette réponse-là va m'ouvrir une nouvelle porte. Et c'est comme ça, en fait, qu'on avance dans sa vie créative. C'est vraiment par une suite de... Il y a quelque chose qui me fait envie et qui me motive suffisamment pour que je sois prêt à me mettre à l'ouvrage, Et je sais que dans cet espace, je vais rencontrer de multiples aventures et de multiples péripéties, et que ça va pas toujours être facile, et que ça va pas toujours être drôle, et que des fois je vais être perdue, mais en même temps, des fois je vais avoir des révélations. Et il va y avoir tout cet espace-là mouvant. Et puis un jour, ça aboutira au projet que j'avais en tête au départ, et qui bien sûr, généralement, n'est pas du tout celui qu'on avait imaginé, qui est le fruit de toutes ces recherches-là, mais qui est le petit moteur de départ dont on avait besoin pour prendre son petit baluchon artistique et se mettre en route. Voilà.
Ouais, et le message, il est très fort, en fait, dans une société, dans nos sociétés où, voilà, où on a vraiment tous collectivement des problèmes liés au stress, à la dépression, au burn-out, à la quête de sens. Enfin, c'est ce qui revient collectivement. L'art, finalement, serait une porte de sortie à tout ça.
Exactement. De toute façon, c'est sûr que pour moi, en tout cas, c'est sûr que je me méfie toujours de la profession, enfin, de professer quelque chose comme si c'était vrai de manière universelle. Je pense que je garde quand même en tête que je suis une femme blanche extrêmement privilégiée qui a tout le loisir pour se poser tout un tas de questions, qui a quand même une très grande liberté dans ce qu'elle veut mettre dans sa vie. Et voilà, mais oui, c'est sûr que pour moi, c'est une réponse sans mélange, en fait, à l'absurdité, quand même, à plein d'égards de notre époque. C'est sûr, c'est vraiment une réponse forte. Et moi, personnellement, ça m'aide énormément à vivre, en fait. C'est sûr.
Ouais. Et si tu devais nous donner un conseil simple, rapidement applicable à une personne qui aimerait être plus, alors je ne sais pas si elle aimerait être plus créative, ou en tout cas elle aimerait développer son âme d'artiste, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais voilà, quelqu'un qui est aujourd'hui est justement en quête de sens, qui a envie de sortir de sa zone de confort, qui a envie de faire autre chose de sa vie, et qui voudrait peut-être se mettre à l'art, à la pratique créative. Comment trouver déjà l'art qui lui correspond, comment s'y mettre concrètement? Quels sont les conseils que tu pourrais donner?
La première chose, c'est que trouver l'art qui te correspond, moi je pense que tu sais déjà l'art qui te correspond. Il y a pas de... Je pense qu'au fond de soi, si tu as envie d'être si tu as envie de développer une activité créative, tu sais très bien ce que tu as envie de faire. Je suis certaine de ce truc de... Il suffit juste de... Si tu ne sais pas parce que tu t'es jamais posé la question, il suffit juste d'aller, je sais pas, juste sur Instagram et faire défiler les images et faire défiler toutes les choses que tu suis déjà, en fait. Toutes les choses qui ont déjà attiré suffisamment ton attention pour que tu aies eu envie d'avoir un contact régulier avec ça par les publications d'autres personnes. A priori, déjà, ça donne une très bonne indication de ce que tu as envie de faire et que peut-être tu t'autorises pas. Donc, la première chose, c'est vraiment saisis ta petite voix intérieure et ce qu'elle te dit de faire. Et si c'est de la poterie, fais de la poterie. Moi, bien sûr, j'ai envie de te dire, fais de l'aquarelle botanique. Mais évidemment, je pense que toute chose pour laquelle on s'est déjà dit... si par exemple on suit des céramistes sur Instagram, bon, a priori c'est qu'on a envie de faire de la céramique à un point ou à un autre, c'est-à-dire que on a quand même une sorte de curiosité, d'envie pour ça. Et du coup, la première chose, ce serait vraiment de suivre cet instinct, que ce soit pour faire de la poterie ou de la batterie ou un truc qui paraît complètement, par exemple moi, ce que je fais, l'aquarelle botanique et donc le dessin réaliste, c'est vraiment quelque chose pour lequel la plupart des gens se disent « Ah non, non, mais alors moi, je suis tellement nulle en dessin que jamais je pourrais faire ça. » Et donc, mon travail à moi, c'est de montrer que bien sûr que tu peux faire ça si tu as envie de le faire. C'est vraiment totalement accessible et beaucoup moins inaccessible qu'on l'imagine. Mais la deuxième chose, c'est ça, c'est d'essayer de passer cette barrière de « c'est trop dur pour moi » ou « c'est trop compliqué » ou « j'y arriverai pas » parce que je pense que le premier frein qui surgit toujours quand on a envie de se lancer dans une activité, c'est de dresser la liste de toutes les raisons pour lesquelles on ne devrait pas le faire. J'ai l'impression que même c'est presque un bon indicateur, plus t'as une liste longue de trucs qui te dit non, ça on le fait pas, on n'y va pas, c'est trop compliqué, plus a priori il y a une chance que ça veut dire que tu t'es tellement posé la question et ton cerveau résiste tellement à cette idée qu'en vrai t'en as très 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 envie et que peut-être c'est peut-être ça qu'il faudrait justement privilégier. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ne vous attendez pas à ce que ce soit confortable tout de suite. Je pense que souvent, une des choses qui fait que les gens s'arrêtent dans une discipline, quelle qu'elle soit, c'est l'image qu'on a de la personne qu'on suit, par exemple, que ce soit sur les réseaux ou parce qu'on a un ami qui pratique déjà cette discipline ou parce qu'on l'a vu à la télévision ou tout ça. On a cette image de la facilité et de la personne qui a l'air de faire quelque chose qui est tellement merveilleux et tellement fluide et tellement gracieux et tellement parfait que ça, on a, en fait, la raison pour laquelle on a envie de faire quelque chose, c'est parce qu'on a déjà on a vu quelqu'un le pratiquer et qu'on a envie d'être dans le même état émotionnel, en fait, que ce qu'on voit. Et évidemment, bah, c'est sûr, si vous apprenez à la danse classique, vous avez vu un danseur classique, vous vous dites, ah bah, moi, je vais faire de la danse classique, bah, assez logiquement, c'est sûr que ça n'a pas donné le même résultat juste en chaussant une paire de pointes. Ce que d'ailleurs vous n'allez pas faire si vous démarrez. Et donc pour moi, il y a vraiment ce truc d'être conscient de ce qui nous meut, ce qui crée notre désir d'aller vers cette discipline, et à la fois de garder bien en tête que c'est pas ça qu'on va avoir tout de suite. Que les premières choses qu'on va avoir, c'est des balbutiements, c'est de l'inconfort, c'est le sentiment peut-être de pas forcément comprendre. Parce que sinon, en fait, le problème de ne pas accepter l'inconfort, c'est qu'on va toujours sinon se trouver à faire des disciplines dont on aura fait le tour en 10 minutes. C'est ce que je vois beaucoup dans plein de domaines en ce moment, c'est-à-dire que cette notion de apprenez la photo en 5 minutes. Ben, en fait, pourquoi est-ce que vous voulez l'apprendre en 5 minutes? Le travail, c'est génial en fait d'apprendre. Enfin, je veux dire, si vous n'avez pas envie d'être dans une situation d'apprenant dans cette discipline, faites une autre discipline, en fait. C'est tout. Enfin, c'est pas grave, il n'y a pas de nécessité à apprendre à faire de la photo, mais on n'apprend rien. Enfin, et puis surtout, on n'apprend rien d'exceptionnel en 5 minutes. Moi, une des choses que je sais quand mes élèves, les retours que me font mes élèves, c'est que je vois bien qu'à un moment donné, ils sont conscients que ce qu'ils ont appris à faire, ça se fait pas en 5 minutes, parce qu'ils savent que eux, ce que ça leur a demandé, et que ben non, c'est sûr que dessiner une feuille d'arbre de manière archi-réaliste et qui va donner l'impression qu'elle sort du papier, qu'elle surgit du papier, ça se fait pas en 5 minutes, c'est pas vrai. Ça s'apprend pas en un claquement de doigts. C'est un truc qui demande des compétences, et je pense que au bout d'un moment, c'est ça qui nous je sais pas, il y a vraiment cette dimension de... Il y a une phrase que j'arrive pas à me mémoriser exactement comme elle est écrite, mais en gros, elle dit « Ce à quoi tu donnes de l'attention se révèle à toi. » C'est-à-dire que si tu vois un mystère, par exemple, danser, jouer du piano, n'importe quel art, je pense que ça nous fascine parce qu'il y a un mystère, il y a le mystère de comment on le crée. Et du coup, ben, pour que ce mystère te soit révélé, il faut que tu y accordes de l'attention. C'est pas une attention de 5 minutes qui va faire que les mystères et les secrets vont être révélés. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, vraiment y accorder de l'attention et de l'amour et du cœur et du temps. Et juste de l'attention, parce que l'attention, c'est différent de la quantité de temps. Parce que parfois, je vois bien qu'on se dit « Ah mais moi, j'ai pas le temps. » Genre, s'il faut 10 ans pour apprendre le piano, j'ai pas le temps, j'ai pas 10 ans pour apprendre le piano. Mais en fait, il suffit d'accorder de l'attention, sa pleine attention à ce qu'on est en train de faire, et les mystères se révèlent. Et alors moi, je le vis à titre personnel avec l'aquarelle. Il y a des tas de choses pour lesquelles, en fait, je vois qu'il n'y a pas 50 solutions pour pouvoir comprendre comment quelque chose peut être fait quand j'observe, quand j'ai envie de faire quelque chose d'une certaine manière. Mais en fait, il n'y a pas d'autre solution que de le faire et de le faire et de le faire. Puis à un moment donné, pouf, la solution apparaît, et vraiment, ça me fait cet effet de miracle, en fait, de ça y est, j'ai cherché, et ça y est, ça apparaît, et souvent, ça apparaît comme d'un bloc, tu vois, ça veut dire comme si c'était juste à côté de moi, et j'aurais pu, ça donne toujours l'impression qu'on aurait pu le trouver en une seconde, parce qu'en fait, c'était tout prêt, la solution, elle était déjà, on tournait autour, et qu'on aurait pu le trouver en une seconde, mais en fait, c'est pas vrai. Moi, je crois beaucoup plus au mystère, voilà, qui se révèle, parce que comme un petit génie qui te regarde faire et qui te dit, toi, je vais te donner la réponse, mais je veux d'abord voir si t'es vraiment sérieux à la chercher. Et oui, si je vois que t'es sérieux à la chercher, je te la donnerai. Et plus t'es sérieux, plus je te donnerai des réponses. Ouais. Moi, je vois ça comme ça, l'art, et puis c'est ça que j'expérimente aussi. C'est ça que j'expérimente, c'est donner son attention.
Ouais, exactement. Tu as parlé d'émotions aussi tout à l'heure. Voilà, ça permet d'être en lien avec ses émotions. C'est aussi ça. Enfin, c'est aussi, je pense, que tes élèves recherchent, ce qu'on recherche.
Ben, il y a vraiment, je pense, cette dimension, encore une fois, hein, c'est d'être présent à soi-même, en fait.
Oui.
D'être, de pas être morcelé. J'ai l'impression que pour moi, c'est un acte de rassembler tous les petits morceaux de soi qui sont éparpillés en permanence par l'agitation dans laquelle on vit tous, hein. Je pense, nous, en tout cas les Occidentaux, on est tous dans une vie qui nous happe de multiples façons, et donc on est tout le temps éparpillés. Et oui, c'est sûr que l'acte de création permet de rassembler tous les petits morceaux de soi et d'être pleinement présent à soi-même et d'être entier. Et du coup, bah oui, de vivre ses émotions, de les écouter, de les comprendre, de les ressentir. Enfin, c'est moi qui pensais, tu vois, je sais pas si ça parlera à tes auditeurs, mais moi qui suis une personne vraiment très très cérébrale et beaucoup dans ma tête, j'ai toujours pensé que du coup, par exemple, de toutes mes activités comme l'écriture, ça allait être bénéfique parce que ça allait me permettre de transformer ce truc-là en quelque chose de nécessaire. Et en fait, je me suis rendu compte que peindre, bah, c'était exactement le contraire de cette cérébralité galopante, que ça me permettait au contraire de faire chut et d'être plus présente et de ne pas être éparpillée. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment consciente que d'avoir une activité manuelle et faire des choses avec mes mains, de faire des choses sur un temps long, en silence, c'était beaucoup plus bénéfique pour moi que d'avoir une activité intellectuelle. Ce que je
Ouais.
pensais, parce que j'ai le cerveau qui marche vite, quoi. Donc pour moi, c'était évident qu'il fallait que je fasse travailler ce cerveau qui part dans toutes les directions tout le temps, qui a besoin d'être, je sais pas, ben en fait, ce dont il avait besoin, c'est de silence.
Ouais. Aujourd'hui, à quoi ressemble ta journée, ton emploi du temps?
C'est tellement bien ma journée. Oh là là, c'est fou. Ma
Raconte-moi.
journée, eh ben écoute, je me lève à 7h30, 7h20. Je commence du coup tous les jours par mes 20 minutes de peinture. En général, je continue mes 20 minutes de peinture, ce qui se transforme plutôt en 1 heure, 2 heures, voire des fois en une journée, parce que ben, j'ai plusieurs objectifs. Comme mon travail, c'est ben, du coup de promouvoir mon cours d'aquarelle. Du coup, bah, j'ai en fait, ce que je fais, c'est je fais la promotion de mon cours d'aquarelle, mais finalement, ça se fait en partageant mon travail, en fait, en partageant le fait que moi je peins. Je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de donner envie à quelqu'un que de le faire soi-même et de lui dire, bah, si tu veux, je t'apprends, puis de même pas le dire d'ailleurs, parce que finalement, je me rends compte que les personnes qui me suivent, elles font ce chemin d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles voient quelque chose qui les intéresse, puis après elles vont sur mon site, elles voient qu'il y a écrit que je donne des cours, et c'est comme ça qu'elles s'inscrivent en fait. Donc mon travail, c'est essentiellement de m'accorder du travail à peindre et à faire des choses. Comme je suis en parallèle un cursus, comment appeler ça? Eux, ils appellent ça un diplôme, mais c'est pas un cours. En fait, je suis le distance learning diploma course de la Société des artistes botaniques, parce que l'aquarelle botanique, c'est vraiment une discipline archi britannique. C'est vraiment eux les rois, et eux, ils ont plein de profs d'école, de trucs de toutes sortes. C'est très 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 chic, l'aquarelle botanique là-bas. Et ça a beaucoup de. Bah, ils ont des jardins botaniques parmi les plus beaux du monde. Donc, il y a vraiment des liens logiques. Et donc, je suis ce distance learning diploma course, mais qui n'est pas un cours en tant que tel. En fait, tous les 2 mois, on a une nouvelle consigne. Et donc, c'est une contrainte de peinture ou de dessin. Et on est noté et évalué par des professionnels qui donc bah, nous font leur retour, et en fait c'est ce retour qui est archi précieux, et ça dure 2 ans et demi, et au terme de ces 2 ans et demi, on se voit ou pas délivrer un diplôme en fonction des 3 derniers devoirs qu'on propose. Et donc voilà, donc je suis ça, et ça m'occupe beaucoup parce que c'est assez exigeant en fait. C'est pas vraiment destiné, c'est même pas du tout destiné aux débutants. Du coup, je pense être parmi les moins expérimentées des personnes de mon groupe. Et du coup, ça exige, c'est très exigeant pour moi. Donc, j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à peindre pour ces contraintes. C'est très difficile. Si je suis tout à fait honnête, c'est loin d'être un long chemin pavé de détente et de joie légère et de là, 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 la vie est trop belle parce que je peins toute la journée. Parce que, en fait, je me sens très souvent pas du tout à la hauteur et ça me demande beaucoup de travail pour me hisser à la hauteur des personnes devant lesquelles auxquelles je montre mon travail dans le cadre de ce cours. Donc ça me demande beaucoup de travail et de faire face à beaucoup beaucoup de peur. Enfin bon, bref, ça c'est normal, hein, ça fait partie de la vie. Donc voilà, donc je passe beaucoup de temps à ça et puis le reste de mon temps c'est être en contact avec mes élèves, réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire comme action de communication, c'est travailler sur les aspects techniques de mon site. Après, c'est un travail d'entrepreneur, je dirais, peut-être un peu plus classique. Je vais me mettre aussi beaucoup à travailler sur un vrai planning de cours autre que mon cours d'aquarelle qui est disponible n'importe quand. J'aimerais bien mettre en place aussi un cours de dessin. J'aimerais donner des cours Zoom sur des thématiques un petit peu plus... pour des personnes peut-être qui auraient envie simplement d'être initiées en une heure ou deux et de prendre en main des petites choses quoi, ou sur des thématiques particulières. Puis là, j'ai pas trop pu le faire cette année parce que j'ai déménagé et c'était quand même compliqué de vivre entre deux... L'aspect déménagement cette année a été compliqué avec le Covid et tout ça. Et surtout, je n'ai pas la fibre chez moi. Je vis dans un quartier où la fibre n'est pas encore installée et ça me limite énormément en termes de possibilités d'organiser des cours en direct.
Ouais, bien sûr. Bon, là, ça ne s'entend pas sur l'interview.
mais non, mais c'est parce que ce n'est pas de la vidéo.
Ah oui, d'accord, c'est la vidéo.
Oui, j'ai quand même la DSL, dès qu'il s'agit de donner des cours, quand même, le truc, c'est quand même quand tu donnes un cours de peinture, tu as besoin que la qualité vidéo soit... quand même que ce soit ça suive parce que les gens quand je donne un cours vidéo les personnes en direct les personnes suivent d'après ce que moi je dessine donc il y a quand même besoin que on voit bien ce que je fais pour pouvoir le faire à son tour et que ce soit aussi fluide pour les échanges donc du coup j'ai été un petit peu retardée mais en principe à partir d'octobre j'aurai redéménagé dans un endroit où il y aura de la fibre cette fois et où il y aura plus d'autres déménagements prévus avant de longues années j'espère donc voilà je pense que mon travail là à partir de maintenant je pense à partir de juillet, ça va être de réfléchir à la rentrée, à la suite, à donner à tous ces projets.
Et est-ce que tu as des peurs sur ce nouveau projet, des soucis parfois, des syndromes de l'imposteur qu'on peut avoir tous et qui nous handicapent aussi pas mal?
Mais alors je ne sais pas si tu as deux jours devant toi, c'est pour qu'on puisse dresser la liste de toutes les difficultés que je rencontre.
Non, mais c'est hyper intéressant.
Je suis habitée. Par, très honnêtement, je dois faire face à chaque instant de ma vie. Moi, dans ma vie, je me sens comme un chevalier qui combat les dragons.
Ouais, avec un gros bouclier.
Ouais, je me sens vraiment comme un chevalier qui combat les dragons. Je dois dire que depuis que je fais de l'aquarelle, vraiment, les dragons sont beaucoup, beaucoup plus petits. Et je pense que ce que je commence à faire, c'est que j'ai toujours mon bouclier un peu. Mais je commence à être capable d'envisager d'apprivoiser les dragons. Vraiment, c'est-à-dire que je pense que la grande différence entre la Anne Solange d'avant l'aquarelle, qui faisait des choses dans lesquelles elle était en tension permanente et qui faisait fondamentalement quelque chose qu'elle n'aimait pas autant qu'elle voulait bien se le raconter, et aujourd'hui, où c'est aussi difficile parce que je rencontre les mêmes difficultés, les mêmes angoisses, tu vois, si on veut dresser la liste des angoisses, alors le syndrome de l'imposteur, alors là, on peut déjà... écrire un roman sur ce sujet, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur que ce soit de la folie. Puis il y a certains jours où je me dis ça, je me dis mais c'est vraiment fou d'avoir... c'est irrationnel d'avoir pris une décision comme ça, puis des fois je me dis mais je vais pas y arriver, quoi, tout simplement, ça, c'est trop dur, je vais pas y arriver. Il y a des tas de réponses que je n'ai pas, je me pose toutes sortes de questions et je ne sais pas du tout comment faire. Par exemple, j'aimerais bien faire de l'illustration pour des clients, type éditeur, type tout ça, mais en fait je sais pas du tout comment m'y prendre. Donc il y a des tas de choses comme ça qui sont des questionnements auxquels j'ai pas de réponse, puis j'en ai plein. Et puis voilà, il y a toutes sortes de difficultés, mais ce qui a changé, c'est qu'avant j'avais vraiment l'impression de me battre contre des choses qui étaient fondamentalement dangereuses et néfastes et qu'il fallait que je m'en protège, Alors que là, maintenant, je suis prête à tendre la main et à aller caresser les dragons et à les percevoir comme des compagnons et peut-être même parfois comme des amis. Et je pense que l'image, elle est assez juste, en fait. C'était qu'avant, je me battais avec mon bouclier devant le visage, tu sais, en permanence, avec l'impression que j'allais prendre des coups. Et maintenant, je suis toujours méfiante. Ça veut dire que je suis, évidemment, je me sens pas du tout... je pense que j'ai vraiment les pieds sur terre et que je suis très terre à terre et que je prends des décisions prudentes dans ma vie. Mais que par contre, même les décisions qui me font peur, je prends le temps de les regarder en face, de les examiner, de me dire « Ok, ça c'est une difficulté, mais comment est-ce qu'on va faire avec cette difficulté ?» J'y arrive pas toujours, bien sûr. Mais par contre, oui, toutes les émotions et les difficultés que je rencontrais, je les rencontre toujours. Il n'y en a aucune qui a disparu. Je me sens pas... Mais par contre, je sais pas, on dirait que je suis vraiment plus capable de les regarder et de danser avec.
Aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive encore d'avoir... des idées qui viennent, qui te viennent et puis qui repartent et qui, puisque tu as, voilà, tu as toujours eu plein d'idées et des multiples projets, est-ce que tu arrives à vraiment aujourd'hui penser ton projet et écarter tout ce qui viendrait autour ou à te dire bon, c'est pas le moment et je mets toute mon énergie dans mon projet?
C'est drôle que tu me poses cette question parce que je pense que j'imagine qu'on doit avoir beaucoup de points communs quand même, toi et moi,
ouais,
pour que tu poses
ouais.
des questions comme ça, parce que c'est rare qu'on me les pose, et tu mets vraiment le doigt sur quelque chose de tout à fait fondamental, qui est la peur, je dirais même la terreur, de me lasser encore et d'avoir encore envie de partir dans une autre direction, parce que je pense que je dois rencontrer la problématique qui est commune à toutes les personnes qui ont plein d'idées, qui est qu'ils ont toujours envie de démarrer les choses et pas d'aller au bout. Donc clairement, c'est, ben, tu vois, on parlait des émotions, des choses difficiles qui nous traversent. Moi, je suis habitée par la terreur d'avoir encore envie de changer de direction. Et j'ai pas vraiment de réponse à ça, je pense que l'avenir le dira. Par contre, il y a plusieurs trucs. Déjà, je me répète en permanence, c'est ça que je vais faire jusqu'à la fin de ma vie. Déjà, je me le dis, et plus je me le dis, plus j'y crois. Et plus ça me paraît avoir du sens. Et l'autre chose que je garde en tête aussi, c'est que je suis une femme adulte, avec un niveau d'intelligence normal, un niveau d'intelligence émotionnelle aussi qui est normal, moyen, enfin voilà, tout ça pour dire moyen, que je suis en pleine capacité de ces moyens, même s'ils ne sont pas exceptionnels, ils sont quand même... Ok, enfin, je veux dire, voilà, il n'y a pas de déficience dans aucun domaine. Et du coup, je suis capable de prendre les bonnes décisions pour moi et que si à un moment donné, je sentais que vraiment, c'était pas, que je m'étais trompée, je me sens aussi assez adulte et assez forte pour me dire, bon, eh ben, tu as fait fausse route, tu pensais que c'était ça que tu allais faire pour le restant de tes jours. Et finalement, c'est pas ça. Et en fait, ça, juste le fait de m'autoriser cette porte de sortie, les fois où je me mets, parce que j'ai toujours envie de faire... En fait, moi, à chaque fois qu'il y a un truc nouveau qui arrive dans ma vie, j'ai envie d'en faire un livre, d'en faire un nouveau compte Instagram. Enfin, je suis tenaillée par des envies comme ça, quasiment, quotidiennement, ce serait mentir, mais quasi... En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ma vie et qui me passionne, j'ai envie d'en faire quelque chose. Tout simplement. Et du coup, ça arrive quand même assez fréquemment. Et en ce moment, bah, je me dis que bah, le fait de m'autoriser à y réfléchir et que quand même bah, ce que je fais actuellement me plaît mais énormément et me donne tellement de sources de on n'a pas beaucoup employé le mot développement personnel, mais me donne tellement de sources de croissance intérieure et personnelle que bah, déjà, je me sens complètement rempli et nourri par tout ça, donc j'ai moins envie d'aller voir ailleurs tout le temps. Et l'autre chose, c'est que de m'autoriser à le faire, ben finalement, avant, par exemple, quelqu'un qui veut écrire un roman, souvent, ben, il a son travail dans la journée et il trouve le moyen d'écrire son roman à un autre moment de la journée. Et puis moi, l'aquarelle, quand j'ai découvert l'aquarelle, c'était pas dans la journée que je le faisais, c'était le dimanche, c'était le samedi, c'était comme tout le monde en fait, c'était le soir. Et en fait, ben maintenant, je me dis, bon, ben, si jamais j'ai envie de développer un autre projet, ben j'ai encore le soir et le week-end et le dimanche et tu vois, en fait, c'est quand même possible et c'est pas forcément irrationnel. Mais par contre, c'est sûr que je pense que il y a quand même des choses que j'essaie de m'interdire, par exemple sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de parler tellement de sujets et je m'interdis de parler de 90% des sujets, en fait. Ça, c'est vrai. Il y a des tas de choses où je me dis non, ça, on arrête, quoi.
Tu as parlé de développement personnel. Est-ce que tu dis, et à quel point ça te satisfait et ça te nourrit en termes de développement personnel, est-ce que tu pourrais un tout petit peu revenir sur cette idée, si tu arrives à formuler des mots, en quoi ça te nourrit en termes de développement personnel?
J'ai une de mes amies, Selma Paiva, qui est coach qui fait du story, enfin qui apprend aux gens qui ont une entreprise à faire du storytelling pour promouvoir leurs produits, qui est donc une spécialiste du marketing, qui dit que il y a trois sujets de développement personnel principaux dans la vie. J'ai oublié le premier. Le premier, c'est d'avoir des enfants. Le deuxième, je ne sais plus ce que c'est. Et le troisième, c'est d'avoir son entreprise. Peut-être qu'elle dit qu'il y a deux trucs, c'est avoir des enfants, c'est ça. Elle disait les deux plus grandes source de croissance personnelle, c'est d'être parent, de devenir parent et d'avoir son entreprise. Alors, devenir parent, ça, je peux pas en parler, j'ai pas d'enfant. Mais par contre, créer son entreprise et être à son compte, notamment, c'est une source, en fait, de... C'est encore un mot qu'on n'a pas employé pendant le temps qu'on vient de passer ensemble, mais la question de la zone de confort, et on en avait parlé au téléphone. En fait, moi, je trouve que quand tu es à ton compte, la zone de confort, tu sais pas ce que c'est. Il n'y a aucune zone de confort, jamais, ou pratiquement jamais. C'est-à-dire qu'il y a des petites pauses de temps en temps où ça y est, là, pendant une semaine, tout est à peu près réglé, et je peux à peu près faire les choses bien, et il n'y a pas de difficulté, où tout est fluide, mais 80% du temps, c'est pas du tout confortable, et on jongle entre plein de choses, on doit faire face à, surtout là, l'année qui vient de s'écouler, à amener tout le monde à s'adapter de manière drastique à une nouvelle situation, à s'adapter vite, à vraiment comme écarter son champ des possibles de manière vraiment brutale, quoi. On a tous que ce soit d'ailleurs avec des conséquences positives ou pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, moi j'en fais partie, qui ont passé une année au point de vue personnel qui m'a appris énormément de choses positives et dont je retire beaucoup 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 de positifs. Mais du coup, voilà, être entrepreneur, être à son compte, je pense qu'il y a vraiment une dimension où t'es tellement jamais en situation d'équilibre et de fluidité, de confort, et tu dois toujours, tout le temps, retrouver cet équilibre, que forcément, effectivement, t'es dans une situation parfaite d'apprenant permanent. Et pour moi, ce qu'on appelle le développement personnel, c'est ça, hein, c'est la notion d'apprentissage et d'élargir son champ de compréhension. En fait, pour moi, je vois ça juste comme... élargir sa compréhension du monde, de soi, des autres. En tout cas, c'est tout ce qui t'amène à modifier ton point de vue sur une situation ou à étendre tes compétences et donc ton champ des possibles. En tout cas, tout ce qui fait que tu avances, quoi, tout simplement. Que c'est pas statique. Et je pense que vraiment être à son compte, j'ai l'impression que n'importe quelle personne à son compte pourrait dire à peu près la même chose, à part peut-être les génies. Peut-être qu'il y a des gens qui ont le cerveau qui marche tellement bien que tout leur paraît facile, un peu comme dans Matrix, là, où ils voient les balles passer, ils les regardent comme si elles allaient très lentement et que c'était vraiment une pichenette à résoudre. Mais j'ai l'impression que pour le commun des mortels, être à son compte et être aussi, je pense, faire quelque chose quand tu es dans le domaine artistique, il y a vraiment cette... En fait, ce que tu fais, moi, je crois que souvent, on se dit que c'est inutile, tu vois, c'est comme, peindre, c'est vraiment pas utile à la société. Mais moi, en fait, je crois que ma croyance à moi, c'est que si la vie, c'était juste une suite de choses utiles, perso, ça m'intéresserait pas tellement. Donc, moi, je considère que pour que la vie soit intéressante, il faut avoir de l'art, il faut que l'art existe. Après, on peut avoir soi-même ou pas des sensibilités artistiques, mais pour moi, l'art, c'est vraiment ça, l'essence de la vie humaine. Et qu'on l'exprime, qu'on en ait besoin pour soi-même ou qu'on ait besoin d'être au contact de l'art des autres, hein, en lisant des fictions, en regardant des films, en écoutant de la musique, de toutes les façons possibles. Du coup, moi, j'ai tendance à penser que c'est essentiel à la vie. Mais il y a quand même un peu ce petit doute de, surtout en France, où on déteste l'idée que le travail puisse être agréable. Il y a ce petit doute de, mais quand même, c'est vraiment génial ce que je fais. Est-ce que c'est légitime de passer autant de temps à ce que ce soit génial? En fait, je crois que j'ose pas trop te dire exactement ce que je fais de mes journées parce que je me sens pas tout à fait à l'aise de dire que ben des fois mes journées en fait c'est juste de la peinture et que c'est juste ça et que je suis juste heureuse en fait et que depuis que je fais ça ben ma vie elle est pleine et heureuse et épanouie.
Ouais.
Et je pense qu'il y a vraiment ce truc là, voilà.
On va finir par des petites questions que je pose toujours à la fin de l'interview. Alors, tu me disais tout à l'heure, on n'a pas abordé le sujet de la zone de confort. Bon, le sujet de la zone de confort, c'est le sujet de mon podcast. Mais je pense qu'on l'a abordé, en fait, de tellement de manières par ton parcours. Si tu veux, on n'a pas posé les mots dessus.
Mais, oui, bien sûr. C'était juste pour dire qu'on n'avait pas employé les mots. Mais non, je trouve ça chouette, au contraire.
Mot, c'est c'est tout ce que tu as fait. Et c'est ce qu'on avait dit en préparant cette interview. C'est que la définition même de ta vie, c'est des sorties de zone de confort, c'est d'essayer et de faire et voilà, et c'est top. On va finir par des questions.
Et souvent, attends, juste quand même de préciser que souvent de rater, hein, c'est juste de dire essayer et quand même très 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 souvent de ne pas y arriver. Mais après, de temps en temps, ça marche quand même. C'est
ouais,
cool.
C'est clair. Les questions que l'on te pose le plus, que ce soit sur tes réseaux sociaux, lors de tes cours.
Les questions qu'on me pose le plus, ah dis donc, c'est drôle ça. Avant, là en ce moment, j'arrive pas trop à. Comme tout est nouveau, il y a pas vraiment. Ah si, bah, le truc qu'on me demande, qu'on me dit toujours, c'est pas vraiment une question, c'est mais toi t'es doué. C'est ce truc, c'est vraiment ce mythe de l'artiste qui serait né en sachant dessiner, qui est vraiment faux en fait, c'est-à-dire que aucun artiste n'est né en sachant dessiner de manière intuitive. Le dessin, c'est tout sauf intuitif, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend, comme on apprend à tracer des lettres, à tracer son prénom quand on a 6 ans. C'est exactement la même chose, on apprend à dessiner, à comprendre comment dessiner une pomme, une cerise, un morceau de sucre, en apprenant à le faire, comme on a appris à dessiner. Ça, c'est un truc que je suis vraiment très, très attachée à le dire, parce que si dans les écoles, on apprenait aux enfants à dessiner, à l'âge de 10 ans, ils seraient capables de dessiner n'importe quoi de manière super réaliste. Et aujourd'hui, quand un enfant de 10 ans est capable de faire ça, on pense qu'il est génial, et on se dit qu'il a un don, alors que souvent, c'est simplement un enfant qui a un parent qui a détecté chez cet enfant un intérêt pour le dessin et qui l'a stimulé et encouragé et qui l'a nourri. Et du coup, ça fait qu'effectivement, il y a des jeunes gens qui dessinent à la perfection. Et je veux pas du tout remettre en question leur don et leur capacité, mais le don, pour moi, c'est bien au-delà de ça, c'est autre chose, le don. Ça, dessiner, c'est une compétence technique. C'est vraiment, ça s'apprend. Comme on apprend à marcher, comme on apprend à compter, comme on apprend à dessiner. Et si vous pouvez repartir, si vous avez eu un jour dans votre vie envie de dessiner ou de peindre, et que vous quittez ce podcast en ayant conscience que si vous avez envie de le faire, il suffit de l'apprendre, je serai heureuse. Même si c'est pas avec moi que vous avez envie de l'apprendre, c'est pas grave. Mais vraiment, je serai vraiment heureuse parce que c'est un espèce de mythe incroyable où en Europe, je sais pas ailleurs dans le monde, mais en Europe, on ne fait aucun lien entre le fait de savoir dessiner, le fait que ça résulte d'un apprentissage. Et voilà. Donc ça, la question, c'est pas vraiment une question qu'on me pose, c'est une sorte de, ah oui, mais bon, il faut savoir dessiner pour dessiner. Mais non, en fait, pour dessiner, il faut avoir appris. Et voilà. Et avant, la question qu'on me posait quand j'écrivais des livres, parce que j'en écrirai peut-être encore à l'avenir, mais c'est, es-tu en vie? Et la réponse était, et c'était vraiment marrant parce que les gens pensent que quand on est auteur, on gagne des sommes astronomiques, alors que je pense que l'auteur est la personne la moins protégée de France en termes de revenus et la plus malmenée. Je ne connais personne autant que les auteurs qui travaillent. Moi, j'ai déjà été payée pour des sommes, pour des travaux qui, placés à replacer dans une perspective de tarif horaire, on était autour de 3 euros de l'heure. Voilà.
C'est fou.
Voilà.
Donc, ouais, on n'écrit pas des livres pour devenir riche, ça c'est clair.
Non. Non, et puis en plus vraiment ça arrive pas souvent quoi, même quand on les vend bien vivre de son écrit. Bon, ça arrive hein, il y en a qui ont des très belles expériences d'auteurs parce que heureusement, il n'y a pas que l'argent qui fait la qualité d'une expérience, mais le est-ce que tu en vis, c'était toujours donc je disais tout le temps alors oui, j'en vis. mais il faudrait que je vous explique comment j'en vis et comment je fais pour réussir à en vivre. Et c'était au prix d'avoir des tendinites, dans les mains et dans les coudes et partout, partout.
Tes citations préférées.
Ah, alors ça, tu m'as envoyé un message pour me demander. Je suis désolée, j'ai pas pris le temps de. Alors, je vais te dire ce que je pense en vrai, c'est que le problème des citations, c'est que c'est un texte extrait d'une pensée souvent qui est plus vaste et développée. Et il y a quelques années, j'avais lancé une newsletter qui s'appelait Pochette Surprise et que j'ai arrêtée, mais que j'aimerais reprendre, qui était partie du constat qu'on échangeait sur Internet des citations partout, tout le temps, et que souvent, c'était de personnes dont on n'avait pas lu l'œuvre, et c'était des phrases extraites de textes qu'on ne connaissait pas. Et je m'étais à cette époque-là promis de ne plus jamais partager de citations qui ne viendraient pas d'un livre que j'aurais lu intégralement. Et du coup, toutes les citations qui me viennent en tête sont des citations archi-bateau et moi, je voudrais essayer de pas trop promouvoir ça. Donc, si tu m'en veux pas, non seulement parce que toutes les idées qui me viennent en tête, c'est des idées de choses qu'on a tous déjà entendues et j'aimerais bien éviter de faire ça. Voilà. Mes livres préférés. Alors, je vais te parler du livre qui m'a fait un détonateur et qui m'a fait prendre conscience à moi-même que dessiner, c'était quelque chose qui s'apprenait, qui est un livre fabuleux. C'est le livre de Betty Edwards qui s'appelle « Dessiner avec le cerveau droit ». C'est un livre qui est une bible de toutes les personnes qui apprennent à dessiner, qui est aussi pour toutes les personnes, je pense, qui s'intéressent à la pédagogie, une mine d'enseignement, juste de la voir, elle, développer sa réflexion sur la pédagogie et la manière d'apprendre, et ce qui se joue dans l'acte d'apprentissage de quelque chose. Donc, un de mes livres préférés, c'est vraiment le livre de Betty Edwards. Il coûte une fortune, mais vraiment, ça les vaut. Il est tout le temps en rupture de stock, d'ailleurs, ce livre. Il faut vraiment l'acheter entre les gouttes, parce qu'il est tout le temps en rupture. Et sinon, en ce moment, je lis, c'est difficile d'avoir des livres préférés, mais en ce moment, j'écoute plus exactement à la recherche du temps perdu, ce que j'avais jamais pris le temps de faire. Et c'est vrai que c'est nécessaire d'éteindre un petit peu en soi sa fibre de femme du 21e siècle qui est agitée de tous ces questionnements féministes et de sa place dans la société et tout ça, parce que c'est évidemment un livre qui met en scène une pensée extrêmement masculiniste, si on peut dire. Donc il faut éteindre cette partie de soi pour pouvoir prendre conscience, je pense, du génie de Marcel Proust, mais du point de vue de l'expression, de la finesse de la compréhension humaine, que ce soit la sienne propre ou l'observation des autres. Je pense que j'ai jamais rien lu d'aussi éclatant. Et je le dis parce que, évidemment, comme tous les livres de génie, on a tendance à se dire un peu que c'est un truc qui fait boule de neige et que ça devient une sorte de livre qui est comme sur un piédestal, un peu on sait pas trop pourquoi. Et bon, en fait, on sait pourquoi. Ouais, vraiment, c'est vraiment passionnant, et je trouve que de l'écouter plutôt que de le lire, en plus c'est plus facile, parce que c'est vrai que il a tendance à faire des retours en arrière. Enfin, il y a une navigation dans le récit qui est très très importante, et j'ai le sentiment que si on a tendance à se disperser un petit peu, c'est vraiment plus facile en écoutant quelqu'un vous raconter de se plonger dans le récit et d'être vraiment à l'écoute de tous les moments qui sont décrits. C'est vraiment super. Donc voilà. Mmh.
Ta plus grande victoire dans ton aventure entrepreneuriale?
Ah, c'est d'avoir réussi à accepter que je laissais tout tomber ce que j'avais fait jusqu'à présent et que je me lançais dans quelque chose de nouveau. C'est vraiment... Ça a été la grosse épine de mon pied que j'ai mis tellement de temps à voir, et d'avoir réussi à me défaire, à changer de direction, c'est vraiment ce dont je suis le plus fière.
Ouais, un échec que tu aurais surmonté.
Un échec que j'en ai surmonté tellement des échecs. Je pense que le dernier en date, ça a été vraiment... c'est pas un échec au sens... En fait, l'année dernière, j'ai écrit un livre qui s'appelait Coquillage, qui était destiné à être vraiment beau, qui était un livre sur... le fait que c'est quelque chose que j'adore, les coquillages, j'en collectionne, je les connais bien et j'avais envie de partager ça, j'ai envie de faire connaître le nom des coquillages aux gens qui vont les regarder sur la plage et de montrer les bricolages qu'on faisait quand on était enfant. Enfin voilà, c'était vraiment un beau livre et en fait, il a été... toutes les photos que j'ai faites ont été... Moi et la photographe avec laquelle je les ai faites, on s'était réparti les photos, ont été vraiment saccagées.
Ah bon.
Et ce livre qui m'avait demandé 5 mois de travail complet.
Et comment ça saccagé ?
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que voilà, mais en tout cas, ça a été des photos qui devaient par exemple apparaître que j'avais prises sur un fond bleu. Le fond est bleu sur un fond rose sont devenues des photos prises sur un fond bleu.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Mmh. Donc et puis c'était un en plus moi je m'étais mis énormément de pression parce que la photographe qui faisait le livre avec moi, Émilie Galpa, que j'adore. Je suis pleine d'admiration pour elle et en fait, j'avais hyper peur qu'on prenne mes photos pour les siennes et donc je voulais surtout pas que quelqu'un puisse se dire que ces photos étaient moins bien que d'habitude. J'étais terrifiée par l'idée que mes photos soient pas aussi bonnes que les siennes et j'avais travaillé mais vraiment comme une cinglée sur ce livre. Vraiment, je me suis donnée à fond à 100% et qu'il y ait eu ce problème sur le livre, ça a été le gros détonateur pour moi de « Ok, c'est la dernière fois que ça m'arrive, je vivrai plus jamais ça, je n'accepterai plus jamais une situation pareille ». Et ça a été pour moi un énorme échec parce que j'avais vraiment mis tout mon cœur dans ce livre. C'était vraiment, ça a été très très difficile. J'ai pleuré, mais pendant une semaine, vraiment quoi. J'ai vraiment versé des larmes puis aussi de dépit de ce monde de l'édition avec lequel j'arrive vraiment pas à communiquer de manière fluide. Et c'était vraiment difficile. Et le fait que à la fois ça a été une sorte de détonateur de OK, ça y est, là, j'ai ce livre-là, j'ai vraiment tout donné avec tout mon cœur. J'ai fait tout ce que je pouvais. Et ça donne ça quand même, ce qui était comme un peu... c'est un peu comme, tu sais, les signes du destin, où là, vraiment, je ne pouvais pas m'attribuer la cause de l'échec, quoi. C'est-à-dire que ça ne dépendait vraiment pas de moi et je ne pouvais vraiment pas me reprocher que ce livre ne soit pas conforme à ce que je voulais, parce que vraiment, ce livre ressemblait à ce que j'avais en tête et je ne pouvais pas me reprocher ça. Je me suis dit, OK... C'est vraiment le signe que c'est pas pour toi. Il faut arrêter d'écrire des livres, arrêter de faire tout ça. Maintenant, tu arrêtes ça, tu arrêtes tout ce merdier et tu fais tes trucs et tu fais ce que tu as envie de faire et tu arrêtes de faire des compromis avec tout et tu fais plus de compromis. Tu fais ce que tu as envie de faire à ta façon et il n'y a plus de discussion et tu te laisses plus marcher sur les pieds par personne et travailler 5 mois comme une folle pour une somme dérisoire. Tu ne fais plus jamais ça de ta vie, Anne-Solange Tardy.
Ouais.
Et ça c'était un échec mais ça en résulte une très grande force pour moi, ça m'a énormément aidée à vraiment couper. Je pense que ça a été le moment où j'ai vraiment sectionné tout ce qui m'attachait à mon ancien travail. En fait, ça a été le moment où j'ai coupé la dernière corde, quoi. Ça a été le quick final. C'était il y a plus d'un an, tiens, c'est marrant, c'était quasiment jour pour jour il y a un an.
Ah ouais. Comment gères-tu ta vie pro-perso?
Moi, je ne fais pas de différence et je suis très à l'aise avec ça, mais je pense que je suis habitée par ma vie pro en permanence, mais c'est très poreux avec ma vie perso. J'essaie autant que possible de travailler avec des gens qui sont ou qui pourraient être des amis. La notion de relation, par exemple d'être pas la même personne dans sa vie personnelle et professionnelle, c'est quelque chose que je trouve ça absurde. En fait, je veux pas être dans cette situation-là. Donc quand il arrive que je sois en contact de personnes qui sont mal à l'aise parce que je suis exactement avec eux, je me comporte avec eux de la même manière que dans ma vie personnelle, quand je vois que c'est un problème pour eux, je me dis juste tant pis, on fera pas le projet fonctionnera pas parce que moi j'ai vraiment pas j'ai pas ce besoin de cloisonner. À côté de ça, c'est vrai aussi que je fais quelque chose qui met ma vie professionnelle me nourrit énormément, donc elle est plutôt positive en fait. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui L'énergie, par exemple, si je me mets à dessiner le soir en regardant un film, c'est une énergie positive, je le fais parce que, pas parce qu'il faut que je le fasse, parce que je suis débordée et que ça me rend malade, et que c'est pour éponger le fait que j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée, je le fais parce que je me dis « Ah, j'ai trop envie de dessiner !» Et donc, je le fais. Et du coup, bah, voilà, il y a des liens où, par exemple, c'est sûr que si, je sais pas, si je suis en vacances avec des gens et que les gens manifestent un intérêt parce qu'ils me voient peindre et que, bah, je leur dis, bah, vous voulez que je vous apprenne et que je vous donne un cours, et puis bah, je le fais parce que ça me fait vraiment plaisir. Mais par contre, c'est certain que c'est un bon indicateur pour moi quand je sens que je commence à me dire ah ben ça, la journée est pliée, allez vite, on a fini, parce que en général, c'est des indicateurs de il y a quelque chose qui va pas. Est-ce qu'on peut essayer de comprendre ce qui va pas, parce que moi, j'ai pas envie de boucler ma journée pour faire enfin les choses qui me plaisent, quoi. Ça, c'est sûr que ce que j'avais tendance à faire beaucoup avant. Hein. Et enfin, avant, non, parce que comme je bossais comme une brute, effectivement, c'était pour eux, mais c'était pour absorber toute la charge de travail que je devais accomplir pour pouvoir payer mes factures, en fait. Là, c'est un petit peu différent. C'est, je gagne beaucoup moins. Alors, je précise hein, que je gagne beaucoup moins de sous pour l'instant. J'espère que ça va changer, mais pour l'instant, je gagne beaucoup moins de sous que ce que je gagnais auparavant. Mais par contre, j'essaye vraiment de garder au maximum, de me laisser diriger par la joie et par le plaisir.
Et ma dernière question que je pose à tous mes invités sur le podcast, ta définition du risque ou de sortir de sa zone de confort, et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement ?
C'est compliqué comme question, dis donc.
Ouais.
Alors, ma définition du risque pour sortir... Ma définition de...
Du risque.
La définition du risque. Pour moi, le risque, c'est quand tu ne sais pas avec certitude où tu vas. Maintenant, je pense aussi que le risque, c'est un risque calculé. C'est-à-dire que si, pour moi, la définition du risque, c'est quand tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones inconnues, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de questions sans réponse, mais que tu as quand même assez confiance dans le peu de réponses que tu as pour te dire « j'ai une chance d'y arriver ». C'est peut-être pas « je vais y arriver » à ce projet, mais « j'ai une chance d'y arriver ». C'est-à-dire que je pense que si, fondamentalement, tu n'as pas étudié assez les choses ou d'avoir l'instinct, après on a tous nos façons de se guider, on a tous nos boussoles intérieures, mais je pense que le risque, c'est on peut appeler ça du risque quand il y a quand même une part de soi qui est rationnel et qui sait qu'il y a une possibilité pour que ça marche, malgré les 95% de réponses, de questions sans réponse et de conscience que il va falloir faire. Ça va être une aventure, quoi. Et on n'en a pas toutes les cartes en main. Et au-delà de ce. Si on part dans un projet en n'ayant vraiment aucune certitude, enfin, aucune conviction, pas certitude, mais. Qui a vraiment aucune raison de penser que, aucune raison valable de penser qu'on a une chance d'y parvenir, ça me paraît un peu kamikaze. Donc pour moi, le risque, c'est quand même ça. C'est ce que j'appelle le risque, ce que j'appellerais le risque, c'est quand on n'est pas sûr, mais qu'on a quand même des raisons, des bonnes raisons d'y croire. En vérité, je crois que ma personnalité à moi, elle s'accommode quand même très très bien de... Je pense que c'est quand même un gros piment dans ma vie de pas tout savoir et de savoir qu'il y a des tas de zones en friche. Par exemple, pour moi, en ce moment, donc il y a mon atelier que j'ai lancé, mon cours d'aquarelle en ligne et le club d'aquarelle que j'ai lancé. Mais il y a énormément de choses que j'ai envie de faire dans l'avenir. J'ai envie de faire des retraites d'aquarelle, peut-être même des choses avec d'autres personnes qui ont d'autres disciplines et qu'on pourrait essayer de mixer ça. J'ai envie d'exposer mon travail un jour. Il y a énormément d'inconnus dans ma vie. En fait, il y a vraiment tellement un champ d'inconnus à défricher, d'aventures possibles. Et pour moi, c'est ce truc-là, en fait. Je pense que je m'épanouis en sachant, en ayant comme une grosse partie de la carte qui me fait envie et en même temps, je ne sais pas à quoi ça ressemble, quoi. Je sais que pour l'instant, j'ai pas toutes les cartes en main, c'est peut-être même pas à l'ordre du jour, mais c'est dans un petit coin et je sais que y a des moments où je vais me lancer un peu sans filet, parce que c'est toujours ça en fait. À chaque fois qu'on se lance une nouvelle aventure, c'est quand même il y a une part où il y a un tout petit filet de sécurité. Et du coup, moi, je pense que c'est pour moi, c'est... Je sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, ça fait vraiment partie du piment, du sel de la vie.
Merci beaucoup, Anne-Solange.
Merci à toi. J'étais tellement bavarde encore.
Bon. Non, c'était super.
Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram lalea.media pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.